Nishmat Ave Mori Rabbi Mahmoud Ben Shabazora. Et Gam, je viens de recevoir un message ici pour la Refoua Shlema de Kemisa Bat Khana, Lydia Bat Lucienne, Yaakov Ben Yamna. Et Gam, Myriam Bat Rachel. Et Gam.
Lydia
Bat Lucienne. Lydia Bat Lucienne, je viens de le dire, là, je viens de recevoir le message. Et celui qui a des enfants, il les envoie avec moi, là, il va Bedrat Hashem. Exactement, au séminaire, Bedrat Hashem. Alors, on va parler ce soir d'un sujet que j'ai développé un petit peu. J'ai eu le scout, Baruch Hashem, dans cette tournée, de rencontrer près de un peu plus d'un millier de personnes, je crois, pendant 2 semaines. J'ai parcouru quelques milliers de kilomètres et je suis très content ce soir de terminer cette tournée ici à Marseille. Demain, je rentrerai Bedrat Hashem en Eretz Israël pour aller continuer le tour là-bas. Et j'ai eu le scoop de voir beaucoup de visages lumineux et ça m'a beaucoup réchauffé le cœur de voir tous ces amis du Ham Israël qui se renforcent et qui veulent se réchauffer autour de la lumière de la Torah. C'est une émotion vraiment particulière quand on voit toutes ces personnes qui sont demandeuses d'enseignement, de Torah. Et ça donne finalement un sens et une dimension encore plus pleine à notre mission. Quand on étudie la Torah, la partager avec les autres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des fois où on n'a pas toujours le mérite de la partager. Et moi, Baruch Hashem, j'ai eu un testament de mon père qui m'a dit avant de quitter ce monde, il y a 3 ans maintenant, que ses paroles soient comme les Nishmato et comme pour les Nishmat aussi du père de mon beau-père, qu'on a célébré aujourd'hui son anniversaire. Il s'appelle Yitzhak Ben Aaron, Bezrat Hashem, chez les Nishmato. Moi, mon père, il m'a dit, si un jour tu deviens célèbre et tout ça, si un jour tu étudies la Torah et que tu te renforces, alors partage cette lumière que tu as avec tous ceux qui sont autour de toi. Parce que c'est quelque chose d'important. On voit, parfois, quand on étudie et tout ça, on est tellement aspiré par le limoud, on est tellement heureux d'étudier, on est tellement heureux de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu que parfois on peut oublier de transmettre, on peut oublier de se tourner vers les personnes. Mais quand on reçoit ce cadeau précieux de la Torah, qu'on a tellement le mérite de recevoir cette lumière d'Hachem, alors je pense que la première des choses à faire, c'est de la partager. Si jamais on connaît, on sait qu'on a découvert un trésor qui peut sauver la vie d'une personne. Imaginez-vous un grand médecin, il a découvert un remède merveilleux qui peut sauver la vie d'une personne. Ben, il va le partager avec le maximum de personnes. Bon, lui, il va venir, ça va être payant, bien sûr. Mais nous, on a reçu la Torah de Shadakadash Borou. Et on sait que ça a rendu meilleure notre vie. Et la Torah, elle dit que celui qui s'approche d'elle, alors il trouvera toutes les bénédictions, il trouvera toute la lumière, il trouvera toutes les bonnes choses. Alors quand on est profondément convaincu de ça, on veut le faire partager au maximum de personnes. C'est pour ça qu'on ne lésine pas sur les moyens, qu'on se déplace d'endroit en endroit, qu'on va de ville en ville, qu'on va de pays en pays. Et que même si on n'a pas de force, Akadosh Baruch Hu nous en donne pour communiquer ce message magnifique. Et Baruch Hashem, voilà, alors j'espère que ce soir on aura le mérite, même si jamais on est peu nombreux. Vous savez, il y a des fois où on est des centaines de personnes dans les salles. On a parlé devant 300 personnes, devant plein de gens et tout ça. S'il faut, parfois, il y a des gens et tout le monde écoute et personne n'avance. Il y a des fois, on n'est qu'une petite poignée, mais chacun, il prend sur lui d'être meilleur. Alors, si jamais on est zoché d'arriver à cette madriga-là, à cette dimension, alors ça valait la peine qu'on vienne ici et qu'on se renforce tous. Alors, Bezrat Hashem, je compte sur vous tous, qu'on puisse être meilleur quand on sortira d'ici, Bezrat Hashem. Ce shiur, il s'appelle « Choisir son monde, les dangers redoutables de l'influence ». On voit que Yosef al-Sadiq, il va retrouver son père dans les parachiotes qu'on vient de vivre. Il va se dévoiler à ses frères. Et il a dit à ses frères, quand il les a vus, il leur a dit, vous allez aller chez papa et vous allez lui dire que je suis encore vivant et que Akadosh Baruch Hu Samani Elohim Keboshel Beretz Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu m'a placé comme le dirigeant de toute l'Égypte. Alors, les fils de Yaakov Avinu, ils entendent cette chose-là. Ils vont retrouver Yaakov avec empressement. Ils sont très contents de le voir et tout ça. Et ils disent, voilà papa, Sache que notre frère nous a dit de te dire qu'il était encore vivant et qu'il a été placé à la tête de Mitzraïm, c'est lui qui dirige. À ce moment-là, le texte nous dit Vayafog Yaakov et Libo. Yaakov Avinu, son cœur s'est figé, Kilom et Hemin Bahem, parce qu'il n'a pas cru ses fils, il n'a pas cru ses enfants. Le Ramban nous dit sur place, Rabbi, c'est le Nachmanide. Le Ramban, c'était un très grand tzadik, Rabbi Moshe Ben Nachman. Il explique là-bas sur place pourquoi, c'est quoi Vayafog et Libo. Son cœur s'est figé, parce qu'il ne voulut pas croire. Il dit qu'en fait, Yaakov Avinu, il a eu une crise cardiaque. À ce moment-là, son cœur s'est arrêté et il est parti. Il était entre les deux mondes. Jusqu'à ce que ses enfants viennent le ressusciter avec des paroles et viennent le réconforter, lui faire une réanimation artificielle en lui disant « Papa » et tout ça, voilà, ils lui ont complété toutes les paroles que Yosef HaTzadik avait dit. Pourquoi à ce moment-là, il est niftar? Pourquoi son cœur s'est arrêté? Pourquoi il était entre les deux mondes et tout ça? Nous, à première vue, quand on entend une chose pareille, on se dit « Bon, ben, peut-être que Yosef HaTzadik, pourquoi il est dans cette situation? Pourquoi Yaakov Avinu, il est dans cette situation ?» Yaakov Avinu, peut-être il est dans cette situation parce que il veut pas en croire ses yeux. C'est trop beau pour être vrai. Son fils, qui était vendu par ses frères, que normalement il aurait dû être un esclave, il se retrouve en haut de la hiérarchie, à la tête de l'affiche, en haut de l'affiche. C'est devenu le vice-roi d'Égypte, le maître de toute l'Égypte, qui dirige toute l'Égypte. C'est pour ça que son cœur s'est figé. On a dit que les enfants de Yaakov, quand ils sont venus voir Yosef, ils lui ont dit... Et quand ils sont venus voir Yaakov, ils lui ont dit, Yosef HaTzadik, il a dit à ses frères, quand vous retrouverez papa, vous lui direz que je suis encore vivant, et que Akadosh Baruch Hu m'a placé à la tête de tout Mitzrayim, de toute l'Égypte. Eux, ils sont venus, ils lui ont dit à Yaakov, tu sais, notre frère, on l'a vu, Yosef, il est encore vivant, et il nous a dit de te dire qu'il dirige l'Égypte. À ce moment-là, le cœur de Yaakov s'est figé, c'est marqué Vayafog et Libo qui est Loïmin Baem. Le Ramban explique quoi, son cœur s'est figé. Son cœur s'est figé, ça veut dire que son cœur, il s'est arrêté, il a une crise cardiaque sur place. Alors les fils, ils sont venus, ils l'ont ressuscité, ils l'ont réanimé, ils ont commencé à discuter avec lui, jusqu'à ce qu'il reprenne la vie. On a demandé pourquoi il est tombé dans les pommes. Généralement, quelqu'un, quand est-ce qu'il peut tomber dans les pommes? C'est quand on lui annonce soit une nouvelle extraordinaire, qui vient de gagner au loto, le gars il devient ma boule et tout ça, il peut avoir un arrêt cardiaque, tellement il est heureux. Ça, on lui annonce une nouvelle très difficile. Nous, en première vue, quand on voit le monde, on se dit, Yaakov, il peut pas en croire ses yeux, ben c'est trop beau pour être vrai. Son fils qui aurait dû être amené normalement à être un serviteur en Égypte et à être vendu comme un esclave, il se retrouve parachuté à la présidence de l'État égyptien qui est la superpuissance économique mondiale. C'est l'économe le plus renommé, le plus réputé dans le monde. C'est pas possible, c'est quelque chose de merveilleux. Bien sûr que Yaakov, pour lui, c'était pas ça. Yaakov Avinu, il tombe dans les pommes parce que il a peur. Et que, à ce moment-là, quand il entend une chose pareille, il aurait préféré que son fils ne vive pas, plutôt qu'ils vivent comme étant le dirigeant d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont conscience de ce que c'est que la finalité, la finalité du monde et la finalité de l'existence. Nous, si jamais on a un fils qui devient le plus brillant économiste ou le plus brillant patron de Microsoft, ça devient Bill Gates, le gars et tout ça, ben on est content, enfin, c'est pas grave, le gars, il fait pas complètement la Torah, complètement les mitzvot, mais quand même, c'est quelqu'un d'important, mon fils, c'est un grand médecin, c'est un grand avocat, c'est un grand patron et tout ça. C'est pas grave s'il n'a pas complètement suivi le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Pour Yaakov Avinu, il vient nous enseigner une chose, c'est qu'un fils qui ne suit pas le derrière de la Torah et des mitzvot, il aurait mieux valu qu'il quitte ce monde. Et à première vue, c'est quelque chose qui va à contre-courant du sentiment paternaliste, qu'un homme il aime son fils et tout ça, il est attaché à lui, une mère elle aime son enfant. Comment c'est possible qu'il prie pour que son enfant il quitte le monde s'il ne suit pas le chemin de la Torah et des mitzvot? En fait, on sait qu'il y a une paracha qui s'appelle la paracha du Ben Sorer Umoré, le fils indocile et rebelle. Que la Torah nous décrit que si jamais ils consomment beaucoup trop de viande et beaucoup trop de vin, alors c'est marqué que le Beit Din, ils doivent le condamner à mort. Il a moins de 13 ans, cet enfant, et à partir du moment où il vole dans le portefeuille de ses parents pour aller s'acheter de la viande et du vin, il devient, il s'attache beaucoup aux passions et aux pulsions de ce monde. La Torah dit Yamut Zakai Val Yamut Hayav. Il doit mourir méritant, et il vaudra mieux pas qu'il meure de façon coupable. Ça veut dire quoi? Yada Torah Besov Dato Shel Adam, nous dit la Gemara dans Maseret Sanhedrin, il y a tout un Perek qui parle sur ça, le Perek Ben Sorer Umoré, et nous dit la Torah est descendue au plus profond de l'esprit de l'homme, et elle a découvert une chose, que si jamais cet enfant-là, il n'a pas de quoi manger un jour et que ses parents n'ont plus de quoi le nourrir et de quoi assouvir ses passions et ses pulsions, à savoir le vin et la viande, eh bien il viendra un jour où il ira à la croisée des chemins détrousser des passants, et si ces passants opposent une résistance à lui, il les tuera pour pouvoir consommer des choses. Donc la Torah nous dit qu'il meurt maintenant alors qu'il n'est pas coupable, plutôt qu'il meurt une fois qu'il sera, coupable. De la même façon, ici le Rav Moshe Kaplan nous avait raconté dans cette paracha de Vaïgash, dans le shiur qui s'appelle « La définition de la vie et sa préservation selon la Torah ». Il nous avait raconté une histoire qu'un jour il y avait un très grand professeur, je crois qu'il habitait en Suisse, c'était un homme très, très, très important de mathématiques, et son père avait survécu à la Shoah. Quand il a survécu à la Shoah, son fils est complètement détourné de la Torah, il est devenu une sommité dans les mathématiques et tout ça, c'était quelqu'un d'important. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Le père a entendu que son fils était vivant. Alors quand il a entendu ça, le premier réflexe qu'il a eu, il a demandé est-ce qu'il est chômeur Torah ou mitzvot ? Est-ce qu'il garde la Torah ? Est-ce qu'il fait les mitzvot et tout ça ? On lui a dit non. Et il dit alors sachez que je n'ai pas envie de le rencontrer. Ah, les gens ils étaient surpris, mais c'est quand même votre fils, vous ne pouvez pas le renier, tout ça, comment c'est possible ? Il lui a dit dites-lui que tant qu'il ne respectera pas le Shabbat, qu'il ne fera pas la cache-route et qu'il ne respectera pas toute la Torah et les mitzvot, je ne veux pas entendre parler de lui. Pour moi, c'est comme s'il n'était pas vivant. Les gens ils se sont dit mais c'est pas possible, Ribono Shalola, mais le gars, alors l'enfant il a tellement été choqué qu'il a décidé de revenir à Bitchouva. Aujourd'hui c'est un enfant qui vit, c'est un homme qui vit à Bnei Brak, il étudie la moitié de la journée. Ça veut dire que son père en fait par ce comportement, qui est un comportement où il a vraiment eu de l'amour pour son fils, et ben il lui a sauvé la vie dans ce monde et dans le monde futur. Un homme qui n'agirait pas comme ça, à première vue, quand on voit cette chose-là, nous qui sommes dans le monde occidental et qui avons été malheureusement influencés par le système occidental, on se dit, mais c'est pas possible, c'est du fondamentalisme, c'est de l'obscurantisme et tout ça. Rabota est un père qui n'est pas motivé par cette réaction que celui-là il a eue. C'est pas qu'il a pas d'amour, c'est pas qu'il a de l'amour pour son fils, il a de l'amour pour lui-même. Il s'aime à lui-même. S'il aimait véritablement son fils, il verrait le bien de son fils, pas son bien à lui d'avoir son fils à ses côtés, de le retrouver, de le voir et tout ça. Et ça, on voit ça de Yaakov Avinu, alav shalom. Yaakov Avinu, quand il va retrouver son fils, il dit une phrase invraisemblable. Il dit... Vayomer Israël el Yosef, amuta pa maharir eoti et panera ki otrachai. Israël, c'est l'autre nom que Yaakov Avinu il avait, il dit à Yosef, je peux mourir cette fois maintenant que j'ai vu ton visage, puisque tu vis encore. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là ? Normalement, quand ce fils-là, il est vivant, alors fais des prières à Kadosh Baruch Hu pour avoir la longévité de la vie. Ça fait 22 ans que tu n'as pas eu ton fils, tu t'es privé de lui pendant 22 ans. Maintenant que tu retrouves ce fils choyé, ce fils que tu aimes tellement et qui est tellement précieux pour ton cœur et pour toi, toi tu dis à Kadosh Baruch Hu, c'est bon, maintenant que j'ai revu ce fils, alors je peux mourir et je peux rendre ma neshama à Kadosh Baruch Hu. Et pour comprendre cette contradiction un petit peu dans les paroles de Yaakov Avinu, on voit précédemment pourquoi il est tombé, il a eu cet arrêt cardiaque Yaakov Avinu. Parce que Yaakov Avinu, il a senti qu'il y avait un problème ici. Il dit, il y a une contradiction à cette proposition qui m'ont dit les frères de Yosef, elle est antithétique. D'un côté, il me dit Od Yosef Chai. C'est quoi Od Yosef Chai ? Normalement, on dit Yosef Chai. Od Yosef Chai, ça veut dire qu'il est encore vivant spirituellement. Le même Yosef qui vivait au temps où il était dans le giron de Yaakov Avinu, qui s'est renforcé avec lui, qui a étudié toute la Torah Kedosha, que pendant 14 ans, Yaakov Avinu, il a étudié dans l'Yeshiva de Shem et Ever. Il a étudié pendant 14 ans, Yaakov Avinu, avant de partir chez Lavan. Ben, toute la Torah, il a révisé avec Yaakov Avinu, avec Yosef Al-Sadiq, c'était sa Haruta. Pendant toutes les années, il a étudié. C'est pour ça qu'il avait un amour très profond et très puissant pour lui. Un amour viscéral pour ce fils. Et ben, il dit, le même amour qu'il y avait, ce même Yosef Al-Sadiq qui vivait avec lui, 22 ans plus tard, après avoir traversé toutes les pérégrinations en Égypte, après être descendu dans le palais de Pharaon, qui est l'endroit le plus perverti au monde, après avoir été l'objet de beaucoup d'agressions, de la femme de Poutifar, après avoir vécu dans la prison avec les gens les plus pervertis, les plus dépravés du système, Od Yosef Chai, le même Yosef est encore vivant, le même tzadik. Mais d'un autre côté, il entend l'autre phrase, la suite de la phrase, Ve'u Moshel Bechol Eretz Mitzrayim. Et Yosef dirige tout Mitzrayim. Il a dit de deux choses, l'une, c'est pas possible. Soit Yosef a tzadik, il est vivant spirituellement, et donc il ne dirige pas l'Égypte. Soit il dirige l'Égypte et il n'est pas vivant spirituellement, parce que c'est pas possible que pour diriger l'Égypte on ait pris quelqu'un qui ait conservé la Torah et les mitzvot. Seul quelqu'un qui s'est assimilé à la culture, au système égyptien, il peut être choisi pour pouvoir diriger l'Égypte. C'est complètement grotesque. C'est comme si on disait aujourd'hui en France, on va prendre aux élections le plus grand Talmid Chacham de la France, ça va être lui le président. Ou tu prends par exemple, comme j'ai dit ce matin, à Ibiza, sur l'île du diable, là-bas le plus grand DJ résident de la boîte de nuit la plus pervertie de Las Vegas, tu dis ça va être le grand maître de la génération. Mais dis, ça n'a rien à voir, de quoi tu parles, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est quelque chose qui est invraisemblable. C'est pas possible que Yosef Hatzadik il soit encore vivant spirituellement d'un côté et que Yosef Hatzadik d'un autre côté il est en train de diriger l'Égypte. C'est pas possible. Donc il s'est dit les deux choses l'une. Si jamais Yosef Hatzadik il dirige véritablement l'Égypte, et donc ça c'est quelque chose qui est plausible, parce que pourquoi les frères ils vont lui raconter une histoire sur ça? Bien sûrement qu'ils ont voulu juste me dire qu'il est encore vivant spirituellement, juste pour me voiler un peu la chose. Comment ils ont fait pour pouvoir faire croire à Yaakov et le ramener à la vie? Ils ont dit, la phrase que Yosef Hatzadik leur avait dit, il lui a pas dit, vous lui direz que je dirige l'Égypte. Il lui a dit, vous lui direz que Akadosh Baruch Hu m'a placé dirigeant de l'Égypte. Et ça, c'est complètement différent. Il est coutume pour les personnes, quand elles sont en train de souffrir, qu'elles ont des grands problèmes et tout ça, ils savent vers qui se tourner. Ils savent que c'est Akadosh Baruch Hu qui leur a envoyé les problèmes et tout ça. Ils savent, ils ne se trompent jamais d'adresse. Ils disent, Ribono Shel Olam, c'est toi qui m'as envoyé ça et tout ça. Par contre, quand on a des aslachot dans la vie, qu'on a des réussites, à ce moment-là, on peut facilement oublier Akadosh Baruch Hu. Ben Yosef HaTzadik, il vient, quand bien même il est devenu l'homme le plus puissant, qui est comblé par le luxe, comblé par toutes les choses de la vie, que tout le monde lui fait du kavod, tout le monde le respecte, tout le monde l'honore. À ce moment-là, après toutes les souffrances qu'il a vécues, après toutes les difficultés qu'il a passées, qu'il a été vendu par ses frères, que pour avoir eu le mérite de ne pas tomber dans les relations interdites, il a été jeté dans une prison pendant 12 ans. C'était ça le salaire qu'Akadosh Baruch Hu il a prévu pour Yosef. Tzadik Veralo. Voilà Yosef Hatzadik, si jamais il avait eu la... Il aurait pu se dire ça, Yosef Hatzadik. Si jamais il avait eu la relation interdite avec cette Mzrouba là-bas, il serait passé à l'as. Il n'y aurait rien eu pour lui. Les personnes n'auraient rien su parce qu'il n'y avait personne dans le palais. Elle l'aurait protégé, elle l'aurait préservé. Il n'y aurait pas eu de problème. Et maintenant que Yosef Hatzadik, il a fait Messie Rout Nevesh pour ne pas tomber, elle a inversé les rôles. Elle a dit que c'était lui qui avait abusé d'elle et on va le jeter pendant 12 ans. Imaginez-vous dans quelle situation Yosef Hatzadik il est. Maintenant que Yosef Hatzadik il se retrouve parachuté en haut de la piste, c'est la personne la plus puissante du monde, il est en droit de se venger. Il est en droit de se dire, ben voilà, c'est mes forces, c'est mes mains qui m'ont parachuté dans cette grande place. Akadosh Baruch Hu m'a abandonné, malgré tout j'ai réussi. Non, Yosef Hatzadik, il dit, Samani Elokim, Kemoshel Bechol Eretz Mitzrayim. Je reconnais que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a placé ici, c'est lui qui m'a mis à cette place. Et encore une fois, quand il entend cette chose-là, il revient à la vie. Un homme qui est parachuté en haut de l'affiche et qui continue à croire d'une foi entière et pleine envers Akadosh Baruch Hu, il continue à s'attacher à Hashem Yitbarach. Il n'oublie pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui est le maître de tout, malgré toutes les épreuves et toutes les choses qu'il a eues. Comme David HaMelech nous dit, Kosi Yeshua Tessaru Shem Hashem Ekra. Quand j'aurai une siyata d'Ishmaïa, une aide providentielle et un succès dans ma vie, je lèverai la coupe et je rendrai hommage à Kadosh Baruch Hu. Tzara ve'agon en sa'u shem Hashem Ekra. Quand même j'aurai des épreuves et des difficultés dans ma vie, je lèverai cette coupe à Kadosh Baruch Hu et je continuerai à croire en lui. Dans toutes les situations de ma vie, quelles que soient les choses, je sais que c'est Kadosh Baruch Hu qui fait tout pour mon bien. Moi je vois les choses, c'est sûr qu'à première vue je comprends pas ce qu'Hashem veut de moi, mais je crois profondément d'une foi entière. Quand Yaakov Avinu entend ça sur son fils, ah, Yaakov Avinu revient à la vie, il est heureux, il sait que son fils n'a pas perdu le chemin de la vie, il est encore présent, il est encore vivant spirituellement. Oh Yosef Rai, il est présent Yosef, il est encore avec Akadosh Baruch Hu, il est attaché à lui. Et on voit qu'après, la deuxième chose qui a ramené Yaakov à la vie, c'est quand il a vu les agalotes, tous les chariots, les convois que Pharaon avait envoyés à Yaakov pour le ramener, pour lui amener des cadeaux et tout ça, il a vu cette chose-là. Et Yosef Hatzadik, en fait, c'était un clin d'œil qui lui a fait de la Egla Arufa. C'était le dernier sujet, la génisse à la nuque brisée, qui est un animal qu'on sacrifie quand il y a un cadavre qui est abandonné entre deux endroits et qu'on ne sait pas qui a été l'auteur du crime. Pour pouvoir expier cette faute, on brise la génisse, on brise la nuque d'une génisse et c'est un sacrifice expiatoire. Le dernier sujet qui étudiait Yaakov Avinu avec Yosef, c'était ce sujet de Egla Arufa. Et le chariot en hébreu, ça se dit Agala. Donc il a dit Agala, Egla. Il a voulu lui envoyer une allusion qu'en fait, tu te rappelles ce qu'on a étudié il y a 22 ans? Ben moi, c'est resté dans ma tête et j'ai continué à étudier cette chose-là. Quand bien même j'étais seul dans la prison, quand même j'ai été le président et le patron, le pacha de tout Mitzrayim, ma tête, elle est restée attachée avec Akadosh Baruch Hu. Yaakov Avinu, il est revenu à la vie. Et après, il lui dit comme ça. Il lui dit, je peux mourir cette fois maintenant que j'ai vu ton visage puisque tu vis encore. Orachaim Akadosh demande, si jamais il me dit que j'ai vu ton visage, ben bien sûr qu'il vit encore. Si jamais il a vu le visage, c'est qu'il vit. Qu'est-ce que c'est cette redondance là-bas, ce pléonasme, cette tournure pléonastique? comme on dit chez nous. Vous avez aimé ça? Ça fait longtemps que je n'avais pas dit ce mot. Alors vous comprenez, c'est quoi ce passage? Je peux mourir maintenant que j'ai vu ton visage parce que tu vis encore. Yosef Hatzadik, il était doué de Chokhmat Apartsouf, de la sagesse des traits du visage. C'est quoi cette sagesse des traits du visage? Tu vois quelqu'un et tu peux appréhender au moment où tu le vois de toutes les avérotes et de toutes les mitzvot qu'il a fait. Quand tu vois cette personne-là, tu te dis voilà, celui-là il fait tout ça. Quand Yosef Hatzadik, il voit le visage de son fils, quand Yaakov Avinu, il voit le visage de son fils Yosef, il dit je peux mourir parce que j'ai vu ton visage et tu vis encore. Ça veut dire quoi? J'ai vu ton visage et tu vis encore. Quand je vois la tzidkout, la gdusha et la tara, je vois cette pureté extraordinaire que tu as conservée malgré l'obscurité dans laquelle tu as vécu pendant 22 ans, il dit je peux prendre ma neshama à Kadosh Baruch Hu. Et là on comprend les paroles de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu vient nous enseigner une chose extraordinaire. Quel est le but et la finalité de l'existence d'un homme et d'une femme dans ce monde? C'est de prendre des neshamot et de les conduire à la destination requise, de faire en sorte qu'ils puissent traverser les 70 années de leur vie, jusqu'à 120 ans, qu'ils puissent arriver jusqu'à Hachem. La finalité de l'existence, ce n'est pas de faire en sorte que nos enfants deviennent des grands patrons, des grands pachas dans la société. Ça, c'est quelque chose d'accessoire. La finalité, c'est de prendre cette neshama et de faire en sorte qu'elle puisse atteindre la finalité qui est de fait de s'attacher à Kadosh Baruch Hu et de rentrer dans l'Olam Haba et de contempler Ziv Penachrina, la splendeur et la majesté divine. C'est ça que Yaakov Avinu est en train de nous enseigner, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui va complètement à contre-courant du système occidental. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Je peux mourir maintenant parce que je vois ton visage et tu vis encore. Ça veut dire quoi? Tu es encore vivant spirituellement, j'ai accompli ma mission. Tant que je ne savais pas ce que tu étais devenu, alors je devais rester dans ce monde pour savoir te chercher, te ramener à la raison, te ramener à la Torah, te ramener à la vertu. Et maintenant que je vois que j'ai accompli ma mission, qui était de faire en sorte que tu restes un tzaddik, par cette éducation que je t'ai transmise, par cette filote que j'ai fait pour toi, maintenant c'est pas grave si Akadosh Baruch Hu il me prend. Parce que moi, le fait que j'ai laissé un ben kacher, comme la Gemara dit, « Kol amavir ben kacher ba'olam enomet », tout celui qui laisse un fils kacher dans ce monde, il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que Bera Mezakeaba, le fils, c'est le pied de son père. La Gemara nous dit, plus que le fils hérite de son père, c'est le père qui hérite du fils. Parce que pour l'éternité, cet enfant, il continuera à faire des mitzvot qui seront malés au Tomi Madrigal et Madrigal dans l'Olam Haemet. Dans le monde futur, là-bas, on arrive, c'est Olam Haamida, c'est un monde de stagnation. Si on a des enfants qui sont kshérim et qui vont dans la Avodat Hashem, alors on a le sroud d'avancer, de continuer à grandir et de continuer à monter. Et encore une, il voit qu'il a laissé des enfants kshérim, il a dit c'est bon, j'ai fini ma mission. J'ai réussi à faire en sorte que tous mes enfants ils soient dans le Derech HaTorah. Celui-là, je ne savais pas ce qu'il était devenu, il a été vendu comme un mzrob là-bas en Égypte. Il aurait pu devenir le plus grand pacha et le plus grand païen du monde. Il est resté attaché à Kadosh Baruch Hu. Maintenant que j'ai fini cette mission-là, je peux remonter à Kadosh Baruch Hu. C'est ce que Yaakov Avinu il vient nous enseigner, c'est quelque chose de merveilleux. Et aujourd'hui, ça va complètement à contre-courant. Comme ça, je disais aux gens, ce Shabbat, j'étais à Toulouse. Je leur ai dit aux gens, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Le gars, quand est-ce qu'il sort qu'il a accompli sa mission envers ses enfants? C'est quand il a laissé le compte en banque là-bas en Suisse, là-bas. Le compte avec la Porsche Ferrari et le building et tous les immeubles et toutes les choses et tout ça. Habibi, avec ça, il peut rentrer dans le gain et gainam, le gars. Tu sais pas ce qu'il va faire avec ça. Tu sais pas quelle est la direction qu'il va prendre. Comment tu fais pour faire en sorte de laisser un bon héritage à tes enfants? Regarde ce que Yaakov Avinu lui a laissé. Il lui a laissé la clé pour entrer dans l'Olam Hazé, pour être au maître Benisayan, pour surmonter les épreuves auxquelles il a été confronté. Comment Yosef HaTzadik a trouvé toutes ses forces? C'est parce qu'il a vu son père au maître Benisayan, il a vu son père avec la foi et le bitachon Bachem. Toutes ces choses-là, quand on est dans l'épreuve, ce qu'on nous a transmis, ce qu'on a appris de nos parents, ce qu'on a appris de nos maîtres, c'est ça qui nous tient pour pouvoir surmonter les épreuves. Et c'est ça la gadlout d'un homme. C'est ça l'amour d'un père pour son fils. Mais tu crois que toi tu peux te débarrasser de ton fils en travaillant 26 heures par jour? C'est les nouvelles journées de Wall Street. Tu vois, le gars il travaille pendant 26 heures d'affilée, tout ça. Après il arrive chez lui et là il fait un chèque à son fils de 10 000 euros. Et ça, allez, baba, t'es le patron et tout. Mais baba, j'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton regard approbateur, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de tes encouragements, j'ai besoin que tu m'apprennes la vie, j'ai besoin que tu t'investisses pour moi. Tu peux pas m'acheter avec des milliers d'euros. On voit malheureusement les gens comment ils sont tombés tellement bas. Les gens qui sont milliardaires et tout ça, ils ont sombré dans la drogue, ils ont sombré dans toutes sortes de choses très graves. Dans les jeux de cartes, ils sont là-bas ou à Las Vegas et ils vont d'endroit en endroit. Comment j'entends de gens qui souffrent de ça. Tu crois qu'avec l'argent tu peux résoudre tout? Voilà Yaakov Avinu, il vient nous enseigner. J'ai amené mon fils à avoir une dimension spirituelle qui l'a permis de surmonter les épreuves et les difficultés de l'exil dans lequel il était. Je peux rendre ma neshama à Kadosh Baruch Hu, j'ai fini ma mission. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai terminé, je sais que ce fils-là, il ira toujours dans le derrière d'Akadosh Baruch. Et on voit dans la paracha de cette semaine, qu'il y a une bénédiction qui a été donnée à par Yaakov Avinu. Il a fait une bracha Beruach HaKodesh. Et on voit la phrase, c'est marqué Vayechem Bayama ou les morts. Le Bereshit chapitre 48, verset 20. Vayevarechem bayom ahu lemor becha yevarech Israël lemor yesimcha Elokim keEphraim vekeMenaché. On sait que Yaakov Avinu, il est venu, il a retrouvé ses petits-fils qui étaient les fils de Yosef Hatzadik, Ephraim et Menaché, et il leur a dit: ainsi il est béni en ce jour, c'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Akadosh Baruch Hu te fasse devenir comme Ephraim et comme Menaché. Et Rashi fait un commentaire surprenant: c'est ainsi que le Père bénira ses fils durant des millénaires. Yesimcha Elokim keEphraim vekeMenaché. Et sur ça, on doit se poser une question. Yaakov Avinu, il retrouve son fils Yosef. Il lui dit de lui apporter ses fils pour pouvoir renouer un contact avec lui. Il n'a jamais vu de sa vie et tout ça. Et quand il voit ses enfants-là, il leur fait une bracha, et il dit: comme ça, on devra faire la bénédiction pour tous les fils d'Israël. Becha Yevarechecha Hashem. Yesimcha Elokim keEphraim vekeMenaché. Ainsi, Akadosh Baruch Hu bénira que Hashem te place comme Ephraim et comme Menaché. On a le droit de se demander une question ici. Le Rachmoine Luminaire, qui était un grand tzaddik de Yerushalayim, va répondre à cette question magnifique. Qu'en est-il de tous les autres Avotenu Akdoshim? Normalement, Yaakov Avinu, il aurait dû dire, c'est quoi la bénédiction qu'on va dire aux enfants? Qu'Hachem, il te place comme Abraham Avinu, comme Yitzhak Avinu. C'est des patriarches, c'est des tzaddikim gumurim, comme Yaakov Avinu, comme Yosef Hatzaddik, comme Issachar, qui est le porteur de la Torah parmi les Shevatim, parmi les 12 tribus. Mais qu'est-ce qu'il vient parler de ces deux-là? Que ceux-là, on ne les connaît pas très bien. Ephraim et Menaché, qu'est-ce qu'ils ont de spécial pour avoir mérité une telle bracha, une telle bénédiction, que tous les bnei Israël du monde entier, à travers les générations jusqu'à la venue du Mashiach, eh ben, ils seront bénis de cette façon? C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Braï Beramotai, c'est quelque chose de magnifique. Encore une fois, le Rashi Moloviner, le tzaddik de Yerushalayim, il a répondu à cette question d'une façon magnifique. Ephraim et Menaché, quand Yaakov Avinu il les a vus, Bechokhmat Apartsouf, quand il les a vus par la sagesse des traits du visage, il a compris leur dimension et leur degré spirituel, qu'il était extraordinaire, il a été ébahi et émerveillé par ça, et il a été tellement touché dans son fort intérieur qu'il a dit: c'est ça la bénédiction qu'on devra faire. Il est de notoriété publique que tous les enfants de Yaakov Avinu, tous les Shevatim, ils ont été éduqués dans la maison de Yaakov Avinu, en Eretz Israël. Ils ont vécu avec lui dans la Kdusha, dans la Tara, dans la Yeshiva. Ils ont vécu toute leur vie avec Yaakov Avinu. Imaginez-vous quelqu'un qui a eu le mérite de voir Yaakov dans sa vie. Quel mérite incroyable! Ces deux-là, Ephraim et Menaché, les fils de Yosef, où ils sont nés? Ils sont nés dans le palais de Pharaon. Ils sont nés dans la Touma, dans l'obscurité, dans le Khosher, dans l'impureté la plus profonde. Dans l'endroit le plus pervers du monde, qui était Mitzrayim, qui était le 49e degré d'impureté. Un endroit dépravé au possible. Avec qui il a vécu celui-là? Qui ont été ses exemples dans sa vie? Il voit toute la journée des sorciers qui rentraient dans le palais de Pharaon là-bas, des marabouts africains, des gens de mauvaise mœurs, des politiciens véreux, toutes sortes de gens qui étaient complètement pervertis au possible. Abotaï, normalement, des enfants qui ont vécu avec des gens comme ça, comment ils doivent sortir? Ça doit être des rechaïng mourim, normalement, des gens qui sont complètement pervertis, parce qu'on est en fonction de l'environnement dans lequel on est, comme on va en parler dans quelques secondes. Yaakov Avinu, quand il voit le visage de cette tzadikim là, il voit l'aura et la lumière qui sort d'eux. Il voit la majesté de ses enfants. Il dit: Becha, ainsi ils feront les bénédictions, les pères pour les enfants. Qu'Hachem te place comme Ephraim et comme Menaché. Par la sagesse des traits du visage, Yaakov Avinu voit que cette lumière qui sort de ses fils-là n'est pas moins grande que la lumière qui sort des autres Shevatim. Il dit: mais c'est quoi la différence entre les deux? C'est que les uns sont nés dans la lumière et qu'ils ont toute leur vie vécu dans la lumière. C'est normal qu'ils aient la lumière sur leur visage. Mais ceux-là sont nés dans l'obscurité, dans l'exil, et ils ont gardé la Kdusha et la Tara. Yaakov Avinu, qui savait que les Bnei Israël allaient être appelés à vivre des exils, il a fait une bénédiction qui serait en adéquation et en phase. Voilà que nous sommes nés dans la Touma, dans l'impureté, dans l'obscurité. On est dans l'exil, dans la galoute la plus profonde. Et on voit des enfants que malgré cet exil et malgré ces initionnades et ces difficultés terribles, ils sont réussis à rester au maître Bnei Israël. Ils ont surmonté les épreuves. Ça, c'est la bénédiction qu'on doit donner aux enfants d'Israël. Que malgré le fait qu'ils sont nés dans l'obscurité, ils ont réussi à conserver une lumière extraordinaire et éblouissante. Ça, c'est la gadlout. Ça, c'est quelque chose qui peut émerveiller encore à nous quand ils voient une chose pareille. C'est pour ça qu'il fait cette bénédiction, parce qu'il savait qu'un jour on serait amené à vivre comme ce Ephraim et Ménaché, entouré par toute cette civilisation de consommation des masses médias où on est agressé en permanence. Et malgré tout, ces enfants-là, ils ont réussi à garder la Kdusha et la Tara. Il dit ça et ça l'a tellement émerveillé encore une fois. Il a dit c'est comme ça qu'on devra bénir les Bnei Israël. Comme ça, il expliquera Shmuel au Miner. C'est une explication lumineuse, magnifique, qui nous explique qu'un homme, quelle est la grandeur d'un homme. Il explique là-bas le Rav Moshe Kaplan sur ce chiot. Il nous disait, notre maître, que c'est sûr que dans la vie de tous les jours, et dans le Limud Torah, dans les connaissances, les autres tribus, ils devaient être beaucoup plus forts. Issachar, ils connaissaient beaucoup plus. Et si on faisait un examen et ça, les autres frères de Yaakov, les autres fils de Yaakov Vishnu, ils seraient arrivés meilleurs dans le classement. Mais il dit, mais la grandeur d'un homme, elle ne se mesure pas que par rapport à son niveau de Torah. Elle se mesure par rapport à sa capacité à surmonter les épreuves de la vie. Quand est-ce qu'on voit quelqu'un de grand? Quand est-ce qu'on voit quelqu'un d'aimé, de choyé, de précieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? C'est quand toute la Torah de chaque qu'il a intériorisé, qu'il a vécu et qu'il a appris, et bien cette Torah-là, il a réussi à tellement l'intérioriser que quand il arrive face à l'épreuve, il arrive à surmonter cette épreuve. C'est la différence qu'il y a entre la Emouna et le Bitachon, entre la théorie et la pratique. Un homme, il peut connaître toutes sortes de choses, mais quand il arrive à l'épreuve, si jamais il n'arrive pas à être au maître d'Israël, à surmonter cette épreuve-là, il dit le Chazonish, la Emouna ou Bitachon, il dit ben, c'est quelque chose qui est resté fictif. Mais si jamais quelqu'un il a véritablement intériorisé profondément le concept de la Emouna, et bien quand il arrive devant cette situation de crise, cette difficulté, et qu'il va réussir à faire Messirut Nefesh, pour dire Ibodo Shalolam, moi j'ai toute ma vie proclamé, Shakon Yavid Baro, Enod Milevado, il n'y a personne à part Hachem, tout a été créé par ta parole, c'est toi Hachem qui dirige le monde. Ben maintenant que je me retrouve dans une situation difficile, je dois continuer à, comme Rabbi Akiva à dire Kolman, David Rahman à l'état ma vie, tout ce qu'Hachem il a fait, la Gemara dans ma sirène, Brachot à Dav Samer, à la page 60, elle dit tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, c'est pour le bien qu'il a fait. Quelqu'un il ressent ça profondément quand il est dans l'épreuve et tout ça, il arrive à surmonter et à être souriant, et à rester confiant à l'avenir, il arrive à continuer à croire en Akadosh Baruch Hu et à s'attacher à lui. Voilà que Ephraim et Menaché, ils ont vécu toutes les pires épreuves. Comment ils ont fait pour surmonter ces épreuves-là? Derech Ephraim, le Ramchal, il explique comment ils ont fait. Il dit que un homme, toute sa vie, il doit faire en sorte de s'asseoir chaque jour pour ne pas se perdre, pour ne pas perdre son chemin. Il doit se dire, faire un examen et un bilan de conscience à chaque instant. Se dire qu'il y a l'Olam Hazé, il y a l'Olam Haba, il y a le Gan Eden, il y a le Geinam, il y a le Yetzera, il y a le Tseratov, il y a la Neshama, il y a le Gouf. Chaque instant, il doit continuer à se questionner. Qu'est-ce que je fais? Qui suis-je? Que suis-je? Qu'est-ce que je ferai? Comment je rendrai des comptes devant Akadosh Baruch Hu? Est-ce que j'aurai la force de pouvoir me tenir devant Hachem par rapport au comportement que j'ai eu? Et chaque jour, il fait cet examen et ce bilan. Il y a deux éléments, il explique derrière Ezraïm. Premièrement, identifier le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Les choses qui sont éternelles et les choses qui sont éphémères. C'est la première des choses. À partir du moment où on a identifié toutes ces choses-là et qu'on s'est assis en ayant une connaissance de la Torah Akdosha, savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il aime, on doit faire un deuxième examen de voir quelle est notre relation par rapport au Emet? Quelle est notre relation par rapport au bien? Où c'est que nous en sommes? Un homme qui fait ça chaque instant de sa vie, chaque jour il consacre une heure à se demander qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il est meilleur aujourd'hui que ce qu'il était la veille? Celui-là, il est impénétrable. Personne ne peut rien lui faire, le Yetzer ne peut pas l'atteindre. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est proche et précieux d'Akadosh Baruch Hu et il se travaille, il est dans une dimension d'avancée. C'est un Ben Alia, c'est un homme qui avance. Mais Moray Berabotai, entre nous qui sommes là ce soir, on est une poignée Baruch Hashem à être venu pour écouter des divrei Torah. Qui fait une chose pareille? Qui a le temps d'avoir l'honnêteté de dire voilà, moi chaque jour je m'arrête pendant une heure et je réfléchis à ma condition humaine, je réfléchis à qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, je fais l'examen et le bilan. Il dit le Ramchal dans Nesiat Yesharim et le Urbal Chovot Alevavot. Il dit quelqu'un qui veut s'enrichir dans sa vie. Toute la journée, il fait des comptes. C'est un comptable, là. Il fait la compte ici, celui-là, il fait les comptabilités, l'autre, il fait la gestion, l'autre, il voit qu'est-ce qu'il a fait, il continue à compter dans ses comptes, il est en train de voir, ça y est, je suis en rouge, je suis en bleu, je suis en blanc, je suis en rouge, je suis en noir, le gars, il a la black card, tout ça. Toute la journée, il fait des comptabilités, il est en train de compter ce qu'il fait, il est en train... Il dit, Habibi, ces comptes-là, c'est des comptes qui sont des comptes matériels, des comptes de quelque chose que tu laisseras dans ce monde. Est-ce que tu as fait le compte et le bilan dans le ciel avec les choses avec lesquelles tu seras amené à vivre éternellement pour l'éternité? Est-ce que tu as fait attention à ça? Est-ce que tu as vérifié et fait un petit peu jauger où c'est que tu en es par rapport à ça? Il dit quelqu'un qui est capable de faire une chose pareille, le Yitzhara ne peut pas l'atteindre. Parce que quand est-ce que le Yitzhara il nous atteint? C'est quand on s'endort, quand on n'a pas compris. Aujourd'hui on est tellement bouleversé par le monde, par la consommation, par la communication. toute la journée en train de sur BBM Messenger, sur Bluebay, sur Bloomberg TV et tout ça. T'as 30 000 messages qui t'arrivent par un côté, t'as 12 000 fax portables, t'as 12 000 coups de fil en même temps. Touloulou, 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 t'as Jacqueline, tu vas bien et tout ça, t'es en train de lui parler sur BBM Messenger toute la journée là-bas, sur MSN. Tu reçois 50 000 messages en même temps. Habibi, est-ce que toi t'as la tête à penser, à réfléchir? Est-ce que t'as la tête à t'attacher à Kadosh Baruch Hu et à penser à savoir où c'est que t'en es dans ta vie? On te laisse pas. Et après là-bas, l'autre Mzrob, là-bas il t'amène la télé, l'autre il t'amène l'internet, l'autre il t'amène, l'autre il t'amène le cinéma, l'autre il t'amène des problèmes, les soucis, les choses, les dingotes. Un homme il doit se débarrasser de tout son fardeau, de toutes ces choses. Il doit dire, Ibono Shalola, maintenant je dois être entièrement avec toi. Tu me débarrasses de tout et je dois prendre conscience qu'est-ce que je fais dans ce monde, pourquoi je suis là. Et il dit le Derech Etzraim, le Ramchal, quelque chose de magnifique. Il dit qu'un homme il doit faire en sorte chaque jour de se demander qu'est-ce qui dans les Avotenu Akdoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ces patriarches et ces matriarches qui étaient tellement tzadikim et qui ont tellement trouvé grâce aux yeux d'Hachem, quand tu vois Kadosh Baruch Hu, il les aimait d'un amour profond et entier, comment ils ont mérité une chose pareille? Parce qu'ils ont fait des massim tovim, ils ont fait des actions merveilleuses, pleines de lumière. Et bien toi, tu dois t'éprendre de ça. Tu dois t'inspirer et t'imprégner de ce comportement magnifique qui est marqué dans notre trésor à Bouddha et la Torah de Chah. Moi, je vous dis, il y a des fois, j'étudie, je verse des larmes quand je vois ces commentaires magnifiques de Rashi. Quand on voit ces paroles de Torah qui sont tellement même magnifiques, quand on a ces exemples-là, ces luminaires, ces phares dans cette obscurité qui est le monde. Quand on voit tous ces mzrobim là-bas dans la rue et tu vois ces tzadikim qui sont dans la Torah, t'as envie de danser de joie. On est les enfants de cela, on est les descendants de ces tzadikim mourim là. Tu te rends compte qu'on a le scoop d'être les descendants directs de Yaakov Avinu, de Avraham et de Yitzhak. On est les enfants de Moshe Rabbeinu et d'Aaron. Quel scoop Atsu on a. Quand tu vois ça, alors tu dois te dire qu'est-ce qui a fait en sorte que ces gens-là ils te trouvent tellement grâce aux yeux d'Hachem. Pourquoi ils étaient tellement aimés? C'est parce qu'ils ont fait ces actions. Alors nous aussi, si on va dans ce chemin, que nous aussi on imite leurs actions, on imite leurs comportements, on s'attache à leur voix, on va dans leur direction, de la même façon que ça, ça a fait en sorte qu'ils étaient aimés d'Hachem, nous aussi on sera aimés d'Akadosh Baruch Hu. Mourel Berabotai, ces enfants Ephraim et Menaché qui ont vécu tellement d'épreuves, que tous les jours ils voyaient dans la cour royale rentrer des gens les plus pervertis, aux mœurs les plus terribles. Comment ils ont fait pour surmonter ces épreuves? C'est par le sroud de l'éducation de leur père, Yosef Hatzadik, qui s'est investi. Chaque jour il étudiait avec eux, chaque jour il travaillait, chaque jour il se réchauffait les uns les autres. Cet émouna et ce bitachon, il répétait ces paroles qu'on connaît tous, mais qu'on a besoin de revivre pour ne pas être agressé par la société, par le Yetzera qui veut nous faire perdre de vue l'essentiel. Si jamais ils n'avaient pas fait ce travail d'introspection, si jamais ils n'avaient pas fait ce travail de remise en question perpétuelle, mais ils se seraient perdus complètement, ils seraient complètement sortis du chemin, complètement sortis du derrière. Mais ils ont eu le scout de vouloir vivre avec le Hémet, avec la vérité. Chaque jour, ils se confrontaient à ça. Ils se répétaient les choses, ils repensaient à leur père, à leur grand-père, à leur grand-père. Ils disaient, regarde comment ils ont fait pour pouvoir se battre, pour ne pas tomber dans les relations interdites, dans le luxe, dans le confort, dans la matérialité. Regarde comment ils sont restés de tzadikim malgré tout. Biscoutés, ils ont été zochés de sortir de ça. En bouteille, on sait que les forces de l'influence, elle est terrible. C'est quelque chose de très difficile et très redoutable. Un homme, comment il fait pour pouvoir lutter contre cette influence? Yaakov Avinu allait être amené à vivre pendant 21 ans. Il allait être amené à vivre avec Lavan. Deux fois, 7 ans, il a travaillé pour ces deux femmes. Ça fait 14 ans. Et 7 ans, il a travaillé pour le troupeau. Et à peu près 6 ans, il a travaillé pour le troupeau. Et après, il était en chemin. Pendant 20 ans, il a vécu en proximité avec l'homme qui était le plus perverti de toute la génération, Lavan, Aviavot Atouma. Il s'appelait Lavan parce qu'il était Koulo Shachor, il était entièrement noir. C'est pour ça qu'il voulait se faire passer pour un blanc. C'était quelqu'un de complètement perverti. Comment Yaakov Avinu a été zoché d'arriver après ces 20 années, il va retrouver son frère. Il lui dit, Im Lavan Garti, j'ai vécu avec Lavan. Taryag Mitzvot Shamarti. Garanti, c'est la guématria de Tariak. Tariak, c'est 613. Il dit, sache que quand bien même j'ai vécu avec ce plus grand perverti du monde, j'ai gardé les 613 mitzvot. Rabotai, mais comment c'est possible? La Torah nous dit que quelqu'un qui vit avec des réchaïm, il deviendra un racha. C'est quelque chose d'inéluctable. Comment Yaakov Avinu a été il a réussi, il a mérité de se protéger de cette mauvaise influence? C'est parce qu'avant de rentrer chez Lavan, il a étudié pendant 14 ans sans dormir. 14 ans, mais Messirut Nefesh, il a étudié de toutes ses forces. J'entendais ce matin de Rabbi Mishra de Niger, le père de mon maître, Rav Ephraim. Il me disait, c'est quoi? Il n'a pas dormi. C'est bizarre. Moi, je pensais toujours que c'était, il n'a pas dormi, jamais dormi aucune nuit. Il n'a jamais dormi la nuit. Il dormait toujours un peu le jour, il faisait quelques siestes. Il m'a dit, les Mefarshim, ils expliquent sur place quelque chose de magnifique. C'est quoi, il n'a pas dormi? c'est qu'il n'a jamais eu le loisir de se dire je vais aller maintenant m'accorder un moment de répit pour aller me reposer. Ça veut dire que quand il tombait de fatigue, ben, il dormait parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais jamais de son propre chef, il a décidé de se donner le loisir que ses yeux vont s'ennuyer. Et Moraïbera Otaïbis, Bessirut Nefesh, avec un don de soi, une abnégation tellement merveilleuse, et encore il nous fait rentrer à l'intérieur de lui la lumière de la Torah de Shah, qui sont les fondations et les racines profondes, qui est en train d'enraciner très profondément dans le sol. Ces racines-là lui permettront d'être dans l'endroit le plus tamé du monde, le plus impur, et malgré tout de garder cette Messirut Nefesh dans la Avodat Hashem, et qui ne va pas se faire pénétrer par les influences extérieures. Si ce n'était que Yaakov Avinu avait étudié ses 14 ans, il serait balayé en une seconde. Mais par le mérite des racines profondes qu'il a enracinées, par la lustroute de la Torah, de l'étude qu'il a fait, de tout ce qui s'est rempli de cette lumière précieuse, quand il est arrivé dans les moments difficiles, Yaakov Avinu a été zoché de tenir. Malgré tous les vents qui sont passés, Yaakov Avinu, il avait cette Yirat Shamayim tellement précieuse et tellement profonde, cette crainte du ciel tellement intègre, que la proximité avec ce Racha Merusha de Lavan ne l'a pas décimé, ne l'a pas déstabilisé. De la même façon, nous qui sommes amenés à vivre avec des gens qui sont de mauvaises mœurs, de mauvaises vertus, comment faire pour pouvoir tenir dans l'exil, dans les difficultés, dans toutes ces agressions perpétuelles? Un homme, plus se remplit du Emet, plus se remplit de la lumière de la Torah, plus se remplit de la certitude, la seule certitude du monde, Rabotai, comment un homme, on ne peut pas le rouler? C'est quand il est sûr de lui. Maintenant, imaginez, vous voilà rencontrer un marboule dans la rue, il va se dire, t'es pas un homme, toi. T'es un Doberman. Ce que tu dis, maman, t'es fou. Tu m'as pris pour, comment il s'appelle, Didier, le chien homme. Il est fou, il n'y a rien à voir avec ça. Moi, je suis pas un chien, je suis un homme. Je ne vais même pas lui parler au gars, je ne vais même pas lui tirer. Je vais dire, Habibi, toi, va à l'hôpital vite, très vite. Va. Tu vas te faire suivre de près. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Puis le gars, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Pourquoi nous, parfois, on nous dit, ouais, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu mangeras, comment tu vas faire pour manger si jamais tu étudies la Torah toute la journée, qu'est-ce que c'est le Olam Haba et tout ça, il faut que tu penses aussi à ta vie ici. Pourquoi on est déstabilisé, tout ça? C'est parce qu'on n'est pas sûr à 100% de nous. Si quelqu'un, il est sûr à 100%, qu'il fait rentrer le Emet et la vérité à 100%, qu'il est aussi convaincu de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a écrit dans la Torah que c'est un homme, alors n'importe qui viendra essayer de le déstabiliser, lui, ça, avec qui il vient? Il vient avec quelqu'un qui a le Safek, la Gematria de Amalek et du Yetzera, c'est Safek. Safek, c'est le doute. Quand est-ce qu'on peut te faire entrer un doute? C'est quand ta certitude, elle est faible. C'est quoi la seule certitude du monde? C'est la Torah. Plus quelqu'un, il se blinde de cette lumière de la Torah, Gdosha. C'est un char d'assaut, c'est un bombardier, personne ne peut le déstabiliser. Et toutes les épreuves de la vie ne pourront pas avoir raison de lui. Pourquoi? Parce qu'il est sûr. La capacité des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Plus quelqu'un, il est plein à l'intérieur de lui de la lumière et du émet de la Torah. Plus il s'est renforcé à sa relation par rapport à la vérité, moins les agressions de l'extérieur pourront avoir prise sur lui. Et c'est pour ça, ces enfants-là, ils se sont remplis de cette lumière. Ils sont arrivés dans ces missionnats terribles. Et encore une, il s'est rempli de cette lumière de la Torah. Il est arrivé dans ces épreuves terribles. Et malgré tout, l'obscurité n'a pas pu avoir raison de sa lumière parce qu'il était tellement sûr d'Akadosh Baruch Hu. Il était tellement sûr de lui. Il avait cette relation tellement magnifique avec Hachem que rien n'a pu le déstabiliser. C'est la raison pour laquelle un homme doit savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la finalité de nous en tant que parents dans ce monde. Ah, moi, Baruch Hashem, j'ai des petits-enfants, ils sont mignons et tout. Et il me manque, ils sont à la maison, je vais aller les voir après dans quelques instants et tout. C'est des mignonnets, vous pouvez venir les voir si vous voulez avec moi. Un petit Shai Marlof, il a 1 an et demi, et l'autre, il a 3 mois, et Raphaël Mordechai, il est très mignon et tout. Et, ils sont magnifiques et tout. Quand tu te dis, ouais, c'est des petits-enfants, tu les jettes comme un ballon de rugby et tout ça. Ah, bébé, tu te rends compte ce que c'est, ça? C'est des Neshamot, que de choses, des Théorotes qu'Hashem t'a confié. Tu dois faire en sorte pas de les éduquer comme toi tu veux. Tu dois les éduquer comme le patron, le maître de l'univers, il t'a confié ces Neshamot. C'est un dépôt que tu as. Toi tu vois, ouais, je fais ce que je veux avec mes enfants, je les éduque comme je veux, je vais au Crown Plaza avec toutes les... à Fresh Woman et tout ça, on les amène et tout ça, on va tous là-bas à la plage comme des pachas en train de danser sur la plage et tout. Habibi, tu te rends compte que c'est la Neshamot d'Akadosh Baruch Hu que t'as pris en captivité, en otage? Comment tu dois faire toi pour faire la finalité de ta vie? C'est quoi la finalité de ta vie? C'est de faire en sorte que ces enfants-là, ils arrivent à traverser le monde d'épreuves dans lequel nous sommes et qu'ils arrivent à destination. Comment toi tu vas faire pour leur transmettre le chemin et leur montrer le chemin, les guider dans des pas lumineux si toi-même tu n'es pas épris de cette lumière? Pour pouvoir éduquer des enfants, on doit savoir leur montrer le chemin. Pour leur montrer le chemin, il faut nous-mêmes qu'on le connaisse. C'est la raison pour laquelle on a un besoin impérieux d'étudier. Quelqu'un qui étudie pas la Torah, qu'est-ce qu'il va faire avec ses enfants? Quelle est la direction qui va les éclairer? Comment il va les éduquer? Comment il va leur montrer le chemin? Dis-toi, tu prends conscience que ta finalité de ta vie, c'est quoi? C'est faire en sorte de montrer le chemin à tes enfants. Mais si jamais tu dois leur montrer le chemin, tu dois le connaître, ce chemin. Ce chemin, Akadosh Baruch Hu te l'a montré. C'est la Torah de chaque qui est le guide d'emploi du bonheur, le mode d'emploi pour bien vivre, le guide qui te permet d'arriver à destination dans ce monde. Plus tu es pris de cette science, plus tu es pris de cette connaissance, plus tu es pris de cette lumière divine, plus tu peux diriger tes enfants dans la bonne direction. On voit que, parce que pareil, il faut quand même parler un peu du sujet qu'on voulait évoquer ce soir, et ça, même si on est en famille, mais il faut rester professionnel. On voit que, on a parlé de l'influence terrible du monde qui nous entoure et tout ça. Vous savez, c'est marqué, Yaakov Avinu, il a eu sa fille Dina, elle a été violée par Shrem ben Hamor. Les commentateurs se demandent comment se fait-il que cette femme-là elle a été violée par ce Mahaboul-là, ce Mzrop. La Torah nous le dévoile à travers un commentaire du Gaon de Vilna, extraordinaire. C'est marqué dans le chapitre 34 du verset 1 dans Bereshit. Elle est sortie Dina, la fille de Yaakov Avinu, la fille du maître de la génération, elle est partie voir les filles du pays. À ce moment-là, Shrem ben Hamor, qui était le prince du pays, c'était un homme très important et très influent, il est sorti, il a une relation avec elle, il l'a violée. Son âme s'est attachée à l'âme de la jeune fille. Jusqu'à là, c'est un roman invraisemblable. Tu te rends compte que l'âme, ça veut dire que le type, c'est quoi? Ça veut dire quoi cette phrase-là? Ça veut dire qu'il a voulu se marier avec elle. Mais de quel droit et de quelle est ton présomption que la fille du maître de la génération, elle va accepter de se marier avec l'homme le plus perverti de la génération? C'est quelque chose d'invraisemblable. Et normalement, n'importe qui entend une chose pareille, il dit, mais Sir Rahman, Sir, qu'est-ce que tu crois avec moi? Tu crois que ça commence pas? Il n'y a pas d'avamina de ça. Pourtant, Rabotai, lui, il a voulu s'attacher. Vaïzaber, elle lève à Nara. Il a parlé au cœur de la jeune fille. Ça veut dire quoi, il a parlé au cœur de la jeune fille? On va voir dans quelques secondes. Et encore plus impressionnant que ça, parce que le fait que ce marboul, il va épouser la fille du Gadol Hador, c'est comme si tu vois l'homme le plus perverti de toute la génération, comme je dis, le DJ résident du Pacha de Ibiza ou de Las Vegas, il veut se marier avec la fille de Rav Chaim Kanievski. Et le gars, il est complètement maboul. C'est que c'est Rafaim Kanievski, papa. Tu peux même pas approcher de sa maison tellement t'es fou, toi. Tu peux pas aller là-bas. Ça, c'est pas grave, que le gars, il ait pété un boulon et ça, quand il a vu cette femme qui était tellement belle, à la limite, ça, on lui pardonne, parce qu'il est fou déjà, c'était un maboule. Mais par contre, c'est marqué dans la paracha quelque chose qui doit nous inspirer beaucoup d'Irat Shamaïm et qui doit nous rappeler à la raison. C'est marqué, les frères de Dina, qui étaient Shimon et Lévi, c'était les fils de Yaakov Avinu, ils sont partis pour aller faire un carnage dans la ville de Shrem et pour venger la vengeance de Yaakov Avinu. On a touché à l'honneur du maître de la génération. Ces gens-là méritaient la mort, ils les ont passés au fil de l'épée, ils ont terrassé toute la ville. Ils sont arrivés, Shimon et Lévi, ils sont arrivés pour aller extraire la fille de Yaakov Avinu, Dina, qui était prise en otage. Donc on imagine que cette fille-là, elle attendait là-bas à la porte, derrière des barreaux, elle suppliait, elle priait à Kadosh Baruch Hu qu'on va la faire sortir enfin de ce cauchemar et de ce calvaire qu'elle a vécu pendant le temps qu'elle était prise en captivité par ce mécréant. C'est marqué là-bas dans le verset 26. Ils prirent la fille de Yaakov, Dina, de la maison de Shrem, et ils sortirent, et nos commentateurs de commenter sur place quelque chose qui doit nous faire trembler. Ils ont pris la jeune fille contre sa volonté, contre son gré et malgré elle. C'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était contente de rester là-bas, elle ne voulait pas sortir, et donc ses frères ont dû lui faire violence pour la rappeler à la raison et lui faire du moussard pour lui dire: tu te rends compte avec qui tu te situes? Il faut vite que tu t'en ailles, et ça, t'as pas le droit d'être là, vite, pas. Ils l'ont pris, ils sont sortis de force. Bon, elle verra vos tailles. Que le rachat se soit attaché à la tzadekette, qu'à cela ne tienne. Mais comment la tzadekette s'est attachée au rachat? C'est une question très forte que le Gaon de Vilna demande. Gaon de Vilna répond avec le verset. Gaon de Vilna, il connaissait toute la Torah à l'endroit et à l'envers. Peut-être c'est lui qui, d'ailleurs, parfois je le dis, mais vous n'êtes pas au niveau que je vous dis ça. Je dis parfois que c'est lui qui a inventé le verlan, mais c'est pas vrai. Parfois, quand vous rigolez, vous reprenez un peu goût à la vie, parce que je vois que vous êtes dans un degré de réactivité proche du coma. Non, je rigole, c'est pas vrai. Enfin, le Gaon de Vilna, c'était un grand tzaddik, il connaissait toute la Torah à l'endroit, à l'envers, il voyait. Non, c'est même pas dire Ashri, je vais à l'endroit, à l'envers, lui, il connaissait toute la Torah, il avait toute la Torah dans sa tête. Ça, je vous explique cette chose-là pour vous dire que devant le Gaon de Vilna, on doit avoir beaucoup d'humilité et on doit s'annuler complètement parce que c'est une sommité à Tsuma. Le Gaon de Vilna, il dit pourquoi Dina est tombée et pourquoi elle s'est effondrée de la sorte, parce que c'est marqué Vayetseu Dina Liron Bivna Taret. Elle est sortie Dina voir les filles du pays. Il dit Dina n'allait pas voir les garçons du pays. Elle est sortie voir les filles du pays. Ces filles du pays, nous dit Rashi sur place, un peu plus loin dans un commentaire que j'ai découvert dans la paracha là-bas. Ils n'étaient pas des filles qui étaient complètement perverties, aux mœurs dépravées complètement et tout ça. Parce qu'on sait que depuis la génération du déluge, le monde avait été détruit à cause de la déréglementation sexuelle et des relations interdites. Jamais les peuples n'ont recommencé dans cette méprise, dans cette inconduite, parce qu'ils savaient que ça pouvait leur causer directement un cataclysme qui allait décimer l'humanité, donc ils n'étaient pas intéressés à ça. Donc ils sont restés un peu tranquilles par rapport à ça. Donc ces femmes-là, ce n'étaient pas des femmes complètement perverties et tout ça. Ils avaient quand même certaines limites. Alors comment c'est possible qu'elles se soient déstabilisées, qu'elles soient tombées? Parce qu'elle est sortie et qu'elle les a regardées. On imagine que, même si ces filles, ce n'étaient pas les filles les plus perverties du monde, mais entre la maison de Yaakov Avinu, qui était la maison de la lumière et de la crainte du ciel la plus profonde et la plus grande dans toute la génération, et ces jeunes filles-là, qui étaient des filles du pays, il y avait un vide et un déséquilibre qui était incommensurable. Le Gaon de Vilna nous explique quelque chose d'incroyable. Il nous dit qu'en fait, il y a deux Yetzirah dans l'homme. Il y a le Yetzirah Mibifnim et le Yetzirah Mibachutz. Le Yetzirah de l'intériorité et le Yetzirah de l'extériorité. C'est quoi ça? Le Yetzirah de l'intériorité, on le connaît tous. Comme c'est décrit dans le livre des quelques gouttes de lumière pour l'éternité, en vente chez les meilleurs éditeurs. La maison d'édition, c'est moi. Je rigole. Vous voyez, dans le livre des quelques gouttes de lumière et tout ça qu'on a écrit avec Dakadosh Borou. C'est même pas une lunette, c'est lui qui l'a écrit, et moi j'étais juste en train de mettre mes mains, et lui faisait le reste, Baruch HaShem. Et il m'a donné la force de veiller les nuits pour pouvoir écrire ça de la première année de mon mariage, à la limite de mon papa, qui m'a sauvé la vie aussi par les épreuves que j'ai reçues. On raconte, là-bas, dans ce il y a un échiot qui s'appelle, dans Parashah Kitetsé, sur le Yetzerara, c'est l'ennemi, la guerre contre le Yetzerara, c'est Tshuva Shelema. Pour faire Tshuva Shelema, il faut faire une guerre contre le Yetzerara. Le Yetzera, toute la vie du Yetzera, nous dit le Baal Chovat HaLevavot et le Ramchal, c'est de faire en sorte que tu puisses sortir de Olam Hazeh et du Olam Haba. Il veut t'expulser de ce monde, t'expulser du monde futur. Toi, quand tu es en train de dormir, lui, il est en train de faire des plans pour pouvoir t'expulser, comment il va te faire trébucher. Lui, il est un peu comme une coupe. Et le vin, tu vois comment ça s'épouse tellement, et bien de la même façon, le Yetzera, il est à l'intérieur de toi, comme du vin qui est à l'intérieur d'une coupe. Il est présent, il occupe chacun des parties de ta vie. Toute la journée, il est en train de te tenter, de te séduire, d'essayer de te faire trébucher, de te mentir. Il est en train de te dire, de raconter des mensonges, tout ça pour toi, te faire sortir du chemin de la vérité, de te faire sortir du chemin d'Akadosh Baruch Hu. Comment faire pour lutter contre lui? La Gemara dans Maseret Kiddushin nous dit, Barati Yetzera, Barati Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzera, la Gemara dans Maseret Kiddushin, la page 30, folio B. J'ai créé le Yetzera et comme seul remède la Torah. La seule remède, comme on a dit tout à l'heure, contre les agressions et contre les doutes et contre toutes les choses, c'est quoi? C'est la Torah. Plus on se charge de cette lumière de la Torah et plus on peut réussir à lutter contre lui. Ce Yetzera, c'est une voix à l'intérieur de nous qui te dit, comme j'ai dit ce matin aux élèves et je l'ai dit un peu partout, j'ai bien rigolé parce que c'est quelque chose de tellement vrai. Il te dit, tu sais, au McDo et tout ça, tu peux manger les frites, il n'y a aucun problème. Il y a un Majgar là-bas, c'est un Indien. Il vient et il fait en sorte que toutes les frites avec le fish, c'est la même huile qui est utilisée pour le fish et pour le bacon, pour tout le mzrob du bâton de berger là-bas et de tout le porc ciné cuit et tout ça. Ça, c'est un autre Majgar, c'est Mahmoud et tout ça, il s'occupe là-bas. Donc il y a deux Majgirim là-bas. Un qui s'occupe de toute la viande et de tout le poisson et les frites, et l'autre qui s'occupe de toutes les viandes avec le fromage et les mélanges et tout ça. Elle dit, baba, tu me prends pour qui? Mais d'un autre côté, quand il est 2h du matin et que tu as très très faim, ça tu peux te laisser influencer. Il te dit, ouais, tu sais, quand tu vas manger du poisson dehors, il n'y a pas de problème, tout ça, ça va. Il met une plaque spéciale, il n'y a aucun calamar sur cette plaque-là. Il y a juste une plaque qui est spéciale pour les poissons avec les écailles et les nageoires. Il y a un Majgar là-bas de chez Rav Lando et de Rav Marfoud de Bnebra qui vient tout le temps là-bas à Pizza Pino. Il est en train de faire. Ah bébé, tu sais que dans cette pizza là-bas, il y a de la présure animale et de la chèvre et du cochonnet qui dégouline des parois là-bas et qui est en train de... Et le gars, le Yetzera, il est à l'intérieur de lui, il lui dit, tu sais, ça c'est la vérité. Par exemple, de la même façon, il te dit, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il t'en voudra pas si jamais tu dors encore 5 ou 10 minutes et que tu arrives un peu en retard à la tefila. Et le type, il arrive après, il est à peu près 10h30 du matin, il a raté toute la tefila parce qu'il a voulu dormir 5 minutes de plus. Et l'autre, il a dit, je te réveille dans 5 minutes. Et tu connais quand le Yetzera, il te dit, je te réveille dans 5 minutes. Il s'est mis là-bas, halanour sur toi là-bas, tu dors bien, tu as peur, il te dit, il dit là-bas, il dit, tu sais, il fait froid dehors, il fait chaud, il y a un lion dans la rue, il peut même te faire croire qu'il y a un lion dans la rue pour ne pas que tu ailles là-bas. C'est quelque chose. En tout cas, il est ouvert dans la tzmecha. Ça s'appelle, ça c'est le yetzera mibifnim, un yetzera de l'intériorité. Comment on lutte contre lui? En faisant en sorte de réchauffer la Torah, et avec le moussard, et avec le concept de dire vise yetzera tov al yetzera, comme on dit la Gemara Maseret Brachot à la page 5, folio 1, elle dit il faut exciter le bon penchant sur le mauvais, et faire en sorte de faire cet examen et ce bilan de conscience, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est le premier yetzera que tout le monde connaît. Mais le Gaon de Vilna dit qu'il y a un deuxième yetzera qui est encore plus redoutable. C'est yetzera mibachutz. C'est yetzera mibachutz, il est terrible. C'est un yetzera que quand tu le regardes, une équipe de gens qui sont des menteurs, tu deviens un menteur. Tu regardes une équipe de gens qui sont des moqueurs, tu deviens un moqueur. Tu regardes une équipe de gens qui sont versés dans les relations interdites, Prince de Shalom, ce syndrome, il peut t'atteindre. Tu regardes des tzadikim, tu deviens un tzadik. Ça veut dire en fait que chaque fois qu'on est en train de regarder quelque chose, eh bien cette chose a une répercussion directe sur notre devenir et sur notre vie. Vatetse Dina Lirod Bivnotaretz. Dina est sortie pour voir les filles du pays. Quand elle est sortie voir les filles du pays, elle a vu un déséquilibre tellement puissant et tellement profond entre sa maison familiale et ce que ces gens-là ils étaient, qu'à l'intérieur d'elle est rentré le géant des relations interdites et qu'elle a pu écouter cette voix et qu'elle a pu être séduite par ce plus grand Racha Merusha. De là, le grand devinat nous dit, regardez la force et la puissance de l'influence, sans parler avec eux, juste en ayant observé ces gens-là. Ce syndrome est rentré à l'intérieur d'elle, elle a été déstabilisée, elle a été décimée, elle a trébuché. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé. Mashma, on déduit d'ici que si elle n'avait jamais regardé ces gens-là, à aucun moment de sa vie, elle n'aurait jamais entendu la voix de celui-là. Elle aurait été reprise par eux. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il vient me raconter celui-là? C'est un fou qui retourne vite chez lui. C'est pas possible. Comment j'ai pu arriver dans un tel endroit? Elle se serait sauvée à la Makom. Mais à partir du moment où elle a regardé les gens qui étaient des Rechaïm, et Bisroudé, j'ai pu expliquer une Gemara qui dit qu'il est interdit de regarder la face d'un rachat. Pourquoi? Tu lui as pas parlé, t'as rien fait avec lui. À partir du moment où tu vois un rachat, alors les ondes négatives qui sont à l'intérieur de lui, elles peuvent pénétrer à l'intérieur de toi. Si jamais tu ne regardes pas ce rachat, alors il ne peut pas t'atteindre. De la même façon, c'est marqué une phrase dans les prophètes. Ve'enecha ro'et mo'echa, tes yeux verront tes maîtres. Ça veut dire quoi tes yeux verront tes maîtres? Mais tu n'as rien dit avec eux, tu n'as pas parlé avec eux. Quand tu vois la lumière d'un tzadik, d'un gadol d'Israël, la lumière et les ondes positives qui sont à l'intérieur de lui, elles entrent à l'intérieur de toi et tu deviens meilleur et tu te renforces et tu te réchauffes. Va'tetzedina lirod bivnotaretz, par le fait qu'elle a vu les filles du pays. Quand Shem ben Hamor, il a commencé à lui parler, les paroles ont trouvé un terrain fertile à l'intérieur de son cœur, elle a pu se faire détourner du chemin de la vérité. J'ai trouvé Bessiat Adishmaya avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu qui m'a éclairé. J'étais en train d'étudier cette paracha, j'écoutais Kriyat HaTorah. Et Bessiat Adishmaya, j'ai trouvé une explication magnifique, tellement belle. J'étais à Bnei Brak, j'avais envie de danser devant tous les gens qui étaient là. J'ai eu peur et tout ça, et qu'ils me prennent pour un marboule. Alors j'ai préféré rester calmement chez moi, et quand je suis arrivé chez moi, j'ai dansé là-bas. Et quand j'étais dans la tournée, j'ai dit aux gens, et quand je dis les Divrei Torah, c'est comme ma Neshama, elle danse, je suis tellement heureux de dire cette Divrei Torah, c'est quelque chose de magnifique. Shrem ben Hamor, c'est Shrem ben Hamar. Hamar, c'est quoi? C'est du Lashon Chomer. Chomer, c'est la matérialité. Shrem, par quoi il a réussi à déstabiliser Dina? C'est parce qu'en fait, lui, c'est marqué là-bas, et Rashi, il explique quelque chose de magnifique. Comment il a fait pour la déstabiliser? Il a parlé à son cœur. C'est quoi qu'il a parlé à son cœur? Il lui a dit, tu sais, avec quelle arme il a réussi à la déstabiliser? Avec l'arme du matériel. Parce qu'avec le spirituel, on imagine qu'il n'était pas maquis dans la Gemara, il ne connaissait pas tout le Shulchan Aruch, ce n'était pas un très très grand érudit. Shrem ben Hamor, il n'était pas juif, il ne connaissait rien, c'était un rustre. C'était un paysan de la campagne de Plan de Cuc. Ouais. Donc tu vois, le type, c'est le gars le plus perversé du monde. Je m'excuse pour les gens qui habitent là-bas. Non, je rigole, je sais qu'il n'y a personne. Tu vois, le type, il ne connaît rien. Donc comment il va faire avec l'arme qu'il a? C'est quoi l'arme qu'il a? Et tout ça, c'est la richoute. Le type, il avait, avec la matérialité, c'était un patron. Alors il est venu, il lui a dit, tu sais, c'est quoi qu'il a parlé au cœur de la Nara? Et que ça n'est jamais s'est attaché à elle. Alors il lui dit, tu sais, regarde combien ton père il a investi pour acheter un petit lopin de terre à Shrem. Yaakov Avinu, il avait acheté un lopin de terre à Shrem. Il dit, regarde combien ton père il a investi pour acheter ce petit lopin de terre. Si jamais tu m'épouses, tous les environs de cette ville t'appartiendront. Tu seras propriétaire terrain la plus grande et la plus influente de tout le secteur, de tout le monde et tout ça. Abouta, à qui il est en train de parler? Il est en train de parler à la fille du Gadol Ador, que toute sa vie elle a vécu dans des conditions de simplicité, dans des conditions où elle savait que ce que le matériel ce n'était qu'un moyen de servir à Kadosh Baruch Hu, ce n'était pas une finalité, une fin en soi. Ce qui compte c'est la Messirut Nefesh pour éduquer les enfants, pour faire des bonnes mitzvot, pour faire la Torah, pour faire les mitzvot, de se donner entièrement à Kadosh Baruch Hu. Comment c'est possible que cette femme-là, normalement elle devrait lui dire, mais baba, mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter, en train de me dire que je vais devenir... Tu crois que tu peux m'acheter avec des dollars, avec des sacs Vanessa Bruno, avec des sacs Hermès, avec ton sac Louis Vuitton et des ch'touillottes? et du holamazé, tout ça, que tu vas me faire des thalassothérapies, on va me faire des massages avec des Thaïlandais là-bas et tout ça. Ils disent que tu crois que tu vas ramener là-bas à l'hôtel David Intercontinental et que ça va me faire quelque chose. Abonnez, c'est la fille du gadol d'or à laquelle on est en train de parler. Normalement, qu'est-ce qui aurait pu la séduire? Tu sais, si jamais tu te maries avec moi, j'étudierai 3000 pages de Gemara, j'étudierai tout le Shulchan Aruch, toutes les halakhot, je mènerai nos enfants à étudier la Torah, je ferai en sorte de t'aider, de t'honorer, de te respecter d'après les lois de la Torah, je ferai en sorte que tu seras la femme la plus heureuse, comme les femmes des Talmidei Chachamim, Rabotai, c'est les femmes les plus heureuses du monde. Et c'est ça qui aurait pu séduire cette jeune fille qui était éprise et emplie de toute la spiritualité. Comment elle a pu s'attacher? Shrem ben Hamor, Shrem ben Chomer, le prince de la matérialité, par quoi il a séduit par la matérialité? Comment elle s'est attachée à cette matière? On imagine que les conversations de ces filles du pays, quand même, ce n'étaient pas les femmes les plus perverties du monde, mais elles n'étaient pas en train de parler de Sarah Imenu, de Rivka, de Rachel, de Afrashat Khala. Comment il faut, quand est-ce qu'il faut prélever la Khala, comment il faut faire Nida, comment il faut faire Adata Katana, comment on allume les bougies de Shabbat. Ils n'étaient pas en train de parler de ça. Ils parlaient des basses considérations de ce monde. Ouais, t'as vu mon dernier sac et tout ça, tu vas bien et tout, ouais, ton bloc, c'est ton gloss, c'est ton bloc, et ton truc, et ton récit là-bas, et ton ch'touillot, c'était... Ouais, elle a entendu cette chose-là, Rabotai. Le Gaon de Vilna nous dit que quand t'entends quelque chose, quand tu vois quelque chose, ça rentre à l'intérieur de ton cœur. À partir du moment où elle avait eu ce syndrome du holamazé, de ses passions et de ses pulsions, et de ce holamazé, de ce monde-là, de ce monde terrestre, de ses plaisirs terrestres, qui étaient rentrés à l'intérieur de son cœur, alors son cœur était un terrain fertile pour les paroles de Semzrop, qui a trouvé un écho favorable à l'intérieur d'elle-même. Machma que si elle n'était pas sortie écouter ses conversations matérielles, mais elle l'aurait jeté très très vite et très très loin. De là, on voit combien il faut faire attention, comment il faut faire attention aux gens qui nous entourent, à ne pas avoir des gens qui sont trop matérialistes, qui parlent toute la journée des zéros qu'ils ont dans leur compte en banque. Il faut trouver des gens qui sont simples, des gens qui aiment la Torah, qui aiment la simplicité, qui aiment Akadosh Baruch Hu, et qui sont, leurs conversations, c'est des conversations qui sont élevées spirituellement, pas des conversations qui sont bassement matérielles. On voit encore une fois le danger redoutable de l'influence qui a pu déstabiliser pas des gens comme nous qui sommes des gens pchoutim, on est des petites virgules, nous, des petites gouttes dans l'univers. Même si on est des gens très importants et très chachouim, parce qu'Akadosh Baruch Hu il nous aime, il aime chacun de nous, et qu'en potentiel on est des sommités, et qu'on peut illuminer le monde entier, de tout l'univers on peut les illuminer, parce qu'on a un potentiel merveilleux. Même si le Yetzera toute sa vie c'est de faire en sorte de nous faire croire, et de nous faire passer pour des petits cactus, pour des petits baobabs comme le petit prince et tout ça. Khabibi, t'es pas un baobab, toi, t'es une lumière, t'es une sommité extraordinaire. Toi, lui, Sarah, qu'est-ce qu'il te fait toute la journée? Il te fait croire là-bas que t'es devenu une brochette là-bas, un shawarma qui est en train de se bronzer sur la plage de Fresh Woman, et t'es en train de te tourner comme une fichamsuya sur la plage. Khabibi, c'est quoi quand est-ce que tu vois si jamais t'as réussi tes vacances? C'est quel est le degré de bronzage? Khabibi, t'es parti au ski ou quoi là? En plein été, quoi. T'as pas du tout bronzé, t'as raté complètement tes vacances. Khabibi, qu'est-ce que t'as raté tes vacances? Moi, mes vacances, c'est quand je bronze de la Neshama. Quand je vais aider mes frères du Ham Israël, quand j'aide les gens qui sont dans une situation difficile, quand j'apporte de la lumière et du réconfort aux gens qui sont autour de moi. C'est ça les vacances, Rabotai. Mais le Tzara, il t'a fait croire que toi, t'étais une petite viande là-bas. T'es devenu un shawarma qui est en train de tourner sur une plage, c'est ça. Comme moi, je suis une viande qui va me tourner sur une plage. Mais je suis le fils d'Hachem, Ben Melech Malcham Lachim Akadosh Baruch Hu. Tu te rends compte que je suis la prolongation de la Neshama d'Hachem. La Neshama, c'est la prolongation de la lumière divine. C'est une sommité la personne, on est Atsum Rabotai, on est très grand. Mais d'un autre côté, on doit connaître nos limites. Et nous, si déjà cette grande tzadikat là, qu'elle a vécu toute sa vie avec les plus grandes tzadikim, elle a dégringolé, elle est tombée tellement bas, au niveau le plus bas et le plus mesquin de tous, combien de nous on doit trembler, combien de nous on doit faire attention? On ne doit pas se dire, ah, c'est bon, je suis blindé, tout ça, il n'y a pas de problème, l'influence, la force du monde, tout ça, je gère et tout ça, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'il faut faire tellement attention. Je vais terminer en vous disant un chidouche qu'on voit dans la paracha dans la paracha quand Yaakov Avinu il retrouve son frère Esav. On voit que Yaakov Avinu il a vécu pendant très longtemps avec Lavan. Il a réussi à surmonter la force de l'influence. Pourquoi? Il n'a pas choisi d'aller là-bas. Lui, il a accompli la volonté de sa mère, il faisait kibbutz avaim. C'est pour ça qu'il était protégé par Hachem, parce qu'on peut se dire, quoi, le gars pour aller se marier et pour avoir de la parnassa, il est rentré à Las Vegas avec l'homme le plus perverti du monde. Comment c'est possible une chose pareille? C'est pas normal. Quoi, Akadosh Baruch Hu, il a protégé malgré tout. Non. Lui, il savait que c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il aille là-bas, qu'il aille ramener les étincelles de Gdusha qui étaient rentrées dans la Touma. toutes ces étincelles de pureté qui s'étaient cachées là-bas dans cet endroit-là. Il fallait faire en sorte que les 12 tribus sortent de là-bas. Et de l'endroit le plus impur au monde, on a amené les choses les plus pures. Ça veut dire qu'un homme, en fonction de sa pensée, en fonction de ses kavanotes, il peut faire sortir la lumière de l'obscurité la plus profonde. Mais ça, c'est que si jamais il est obligé et qu'Akadosh Borou il a fait arriver par là-bas. Mais un homme n'a pas le droit de rentrer dans une épreuve. Et encore une nous, il sort victorieux de ces épreuves terribles et il va retrouver son frère. Son frère Esav, c'était un homme qui était très mauvais. Et lui, il n'a pas choisi son monde. Le choix du monde, c'est justement le fait que Yaakov Avinu a choisi le Olam Haba. Il a donné son Olam Hazeh, qui est le plat de lentilles, à son frère Esav, qui a choisi comme monde le Olam Hazeh. Et Yaakov Avinu a choisi le Olam Haba, la Avodat HaKohanim, le droit des Nas, qui était le service pontifical. Donc on voit que Yaakov Avinu, il a bien choisi. Maintenant, il va retrouver son frère, et là, à ce moment-là, il va commencer à trembler. Yaakov Avinu, il tremble. Il redoute de retrouver son frère, alors que quand même il a réussi à surmonter la difficulté de l'entourage négatif de Lavan, donc normalement il devrait être sûr de lui. Mais là encore une fois, il a peur, il tremble. Yaakov Avinu va formuler une prière devant Hachem Yitbarach. Il lui dit « Atzileni miyad achi miyad Esav. Sauve-moi de la main de mon frère, sauve-moi de la main d'Esav. » Ça veut dire quoi? Rav Elchanan Wasserman et le Beit Halevi, un des grands rabbins de la famille de Brisk, demande une question. Il dit « Ça veut dire quoi? Atzileni miyad achi miyad Esav. » Parce qu'il y a encore avec nous, il avait un autre frère. Donc normalement, il aurait suffi qu'il dise « Sauve-moi de la main d'Esav ». Parce qu'il y avait un autre homme qui s'appelait Esav dans la génération. Donc il aurait juste pu dire « Sauve-moi de la main d'Esav ». Qu'est-ce que tu dis de mon frère de Esav? Pourquoi tu répètes cette chose-là? On sait que la Torah, chaque mot qui est marqué dans la Torah, il a un pesant d'or, il a un poids très fort. Pourquoi tu as besoin de répéter ces deux choses-là? Si j'ai dit « Miyadari, Miyadesav ». La réponse qu'il nous apporte, ces grands doshim et ces grands théorimes-là. C'est qu'en fait, il y a deux ennemis dans l'âme Israël. Il y a un ennemi qui se montre aux gens en étant un ennemi qui a été défini par avance. Il vient avec la mitraillette, avec le gourdin, avec les bombardements, avec l'Hiroshima, avec Nagasaki, avec la bombe nucléaire, la bombe atomique, avec les Doberman, avec toutes sortes de chiens et toutes sortes d'armes qui sont venues pour pouvoir nous nuire. Ouais, c'est l'attaque bactériologique et tout ça. Ça c'est Miyad Esav. L'ennemi Esav qui est identifié en tant que tel. Mais il y a un autre ennemi encore plus pernicieux et encore plus fallacieux. Un ennemi encore beaucoup plus sournois, qui s'appelle Miyadari. Miyadari, c'est l'ennemi qui se fait passer pour ton frère, qui veut t'assimiler à sa culture, qui veut te faire perdre ton éternité, qui veut te faire perdre ta judaïté et ton amour d'Akadosh Baruch Hu et toute ta Torah et toutes tes mitzvot. Et te dit, mais je suis ton frère, viens, marie-toi avec moi, on n'est pas différents l'un de l'autre, il n'y a pas de problème et tout ça, quel est ton problème? Viens. Tu sais, tout ce qui te pose comme problème, comme il y avait ce mzrob là-bas de Herzl. Il a dit, vous savez, il a écrit là-bas dans un livre, il a dit, tout ce qui a causé comme problème au peuple juif depuis le début, c'est sa religion. C'est pour ça qu'ils ont été haïs. C'est du fait qu'ils étaient attachés à la Torah. Vous savez la solution que je vous propose? Maintenant, on va abandonner toute la Torah. Comme ça, on n'aura plus aucun problème et tout ça. Donc, il a proposé une conversion à la religion catholique et tout ça. Comme ça, personne ne pourra nous attaquer, on n'aura pas de problème et tout ça. Et ça, c'est la force de Miyad et Ahri. Le gars, il se fait passer pour quelqu'un de chaleureux, il t'assimile à sa culture, il te fait sortir de ta dimension de Ben Israël. Yaakov Avinu, il retrouve son frère Esav. Il fait une prière devant Akadosh Baruch Hu. Et regardez l'ordre dans lequel il a prié. Nous, si jamais on avait fait cette prière, on aurait dit quoi? Sauve-moi de la main de mon ennemi, sauve-moi de la main de mon frère. Bon, ça va, le frère et tout ça, c'est pas grave, il est chaleureux, il est bien et tout ça, c'est pas grave, si jamais je m'assimile, je perds un peu ma dimension de Ben Israël, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais par contre, l'ennemi, celui-là, j'ai peur de lui. Et après, il nous fait l'inverse. Atzileni miyad achi miyad Esav. Sauve-moi de la main de mon frère, sauve-moi de la main d'Esav. Si tu ne me sors pas de la main d'Esav, si jamais je dois mourir, à partir du moment où je meurs comme un Ben Israël, je meurs avec mes habits, mes tefilines, ma Torah, mes mitzvot, je meurs, c'est pas grave. Je sais que si jamais on me fait sortir de ce monde-là parce que je suis mort, parce que je suis juif, parce que j'étais tué, je mourrai al Kiddush Hashem en sanctifiant le nom de Dieu, je serai dans la place la plus précieuse et la plus grande, une place de choix auprès d'Hashem. Je vais être sous les ailes protectrices de la Shekhina. Akadosh Baruch Hu va me pardonner toutes mes fautes. Si jamais on me tue parce que j'ai pas de problème par rapport à ça. Mais par contre, Akadosh Baruch Hu, sache que je te demande de me protéger, c'est de mon frère. Celui qui va me faire passer, qui va me faire perdre mon éternité, qui va me laisser en vie, mais qui va me faire vivre comme un goy plutôt que de mourir. Je veux mourir comme un juif et pas vivre comme un goy. Ça, c'est quelque chose que je n'accepterai jamais. Et Yaakov Avinu, il fait cette prière à Kadosh Baruch Hu. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, le Beit Halevi, il a été exaucé dans cette fille-là. D'où on voit? On voit que Yaakov Avinu, dès qu'il a retrouvé son frère, Normalement, quand tu retrouves ton frère que tu n'as pas vu depuis 20 ans, tu lui racontes ta vie, tu bois des verres avec lui, tu vas partager un bon restaurant, tu passes des moments à lui raconter tous tes souvenirs d'enfance, Street Fighter et tout ça. Tu lui dis Jeanne et Serge, Dragon Ball Z, Sangoku, Sangohan, Gotrunk, le verre, la Satan Petit Cœur, toutes sortes de ch'touillottes que tu as vues et tu vas commencer à lui parler. Normalement, c'est comme ça que quand quelqu'un n'a pas vu quelqu'un depuis longtemps, il lui raconte toutes ces choses-là. C'est marqué à ce moment-là que Yaakov Avinu, quand il retrouve son frère, il fait une prière. Et Akadosh Baruch Hu, il écoute et il exauce sa prière. Il dit à son frère, Esav, va à Seir et je vais te rejoindre. Et il a pas rejoint. Et quand est-ce qu'il le rejoint? Il le rejoindra au temps du Mashiach. Ça veut dire qu'en fait, Yaakov Avinu, il a eu le srout parce qu'il avait tellement peur d'être dans la proximité avec ce rachat de Esav qui aurait pu le faire sortir de la vie, du monde futur, qui aurait pu lui faire entrer des idées négatives et qui contreviennent à la volonté d'Hachem et qui contreviennent à la Torah. Il avait tellement peur de lui que Akadosh Baruch Hu ne lui a même pas fait passer une nuit avec son frère alors qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il l'a protégé, il l'a préservé. Et Rav Elfaranan Wasserman nous dit que Atzil Enimi Adachim Yad Esav, l'ennemi qui est l'ennemi qui s'appelle Esav, c'est vrai qu'il a tué beaucoup de Ben Israël, de Bnei Israël à travers les générations, à travers les pogroms, à travers la Shoah, à travers toutes les choses qu'on a vécues, combien d'épreuves on a vécues, combien de difficultés. Et ça, tout ça, les peuples des nations, ils payeront pour ça. Mais il dit, ça c'est une petite monnaie comparée à tous les frères qu'on a perdus par l'ennemi qui s'appelle Ahi, par l'ennemi de l'assimilation. Combien de frères du Ham Israël se sont éteints? Rav Elchanan Wasserman, il disait, quand les frères ils sont partis à la Shoah, ils sont morts comme des Bnei Israël en train de chanter Adon Olam. Leur Neshama, elle est rentrée dans le Olam Haemet directement. Sans être jugés, ils sont rentrés sous les ailes protectrices d'Hachem. Mais par contre, quand on nous a assimilés et qu'on a vécu comme des goïms, combien de nos frères ont été décimés? Le taux d'assimilation, je voyais avant de partir en Eretz Israël, il est à 49% mondial, le taux d'assimilation mondial. Dans les grandes villes, il y a 50% d'assimilation. En France, il reste 450 000 juifs, il y avait 600 000 il n'y a pas longtemps. Où ils ont passé tous nos frères? Et c'est ça que Yaakov Avinu, il dit, il savait que dans les générations à venir, il y allait avoir des grandes épreuves. Il dit, mais Akadosh Baruch Hu, sauve-nous de la main de mon frère. Cette épreuve-là est beaucoup plus dangereuse que l'autre. L'autre, c'est pas grave, on s'arrange avec les autres, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si jamais on doit mourir, on est prêt à donner notre neshama à Akadosh Baruch Hu. Mais par contre, mourir spirituellement, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas. Et pour terminer, je vais vous dire un petit machal qui va bien vous faire comprendre ce que c'est. On voit depuis la Deuxième Guerre mondiale, on voit qu'il y a eu une accalmie après la Shoah. Les Bnei Israël, c'était le paroxysme des crimes contre l'humanité et de l'univers concentrationnaire. On a vu ce que l'homme a été capable de faire à l'homme, c'était des choses qui étaient terribles. On a vécu des moments tragiques. On a vu comment ils ont voulu nous terrasser par la force. Mais depuis ça, on voit qu'on vit quand même une période d'accalmie relative. On connaît une prospérité économique sans précédent. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il semble être avec nous. Aujourd'hui, on n'est plus agressé de la même façon que ce qu'on était à l'époque. Toute proportion gardée quand on voit ce qui s'est passé pendant la Shoah, pendant les massacres de York, pendant les pogroms, pendant les bolcheviks, les melcheviks, pendant l'armée rouge, pendant Purim, pendant Hanouka, pendant toutes ces choses-là, c'était des agressions qui étaient terribles. Aujourd'hui, on vit quand même dans un confort, dans un luxe, dans un confort relatif. Et dans des agressions qui sont moins flagrantes. Il dit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui voulait venir à bout d'une mouche. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette mouche? Il a pris un bazooka, il a essayé de la toucher, il n'a pas réussi. Il a pris une bombe atomique, non plus. Il a essayé de prendre une tapette, il a essayé de prendre un torchon. Il voyait que cette mouche, elle était très résistante. Il s'est dit à la fin, bon, je vais essayer de l'attraper par une façon assez insolite. C'est la technique de Winnie l'ourson qu'on l'appelle. Je vais prendre un petit fond de miel, je vais le mettre à l'intérieur d'un verre. Cette mouche va tournoyer à l'intérieur du verre, elle va se poser et résider à l'intérieur. Et là, quand elle va rentrer, au fond, elle va s'attacher là-bas, elle va rester, je l'aurais pris au piège. Rabotaï, cette histoire-là, c'est l'histoire d'Israël et les nations. Les peuples des nations, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas en venir à bout de nous. Ils ont voulu nous gazer, ils ont voulu nous martyriser, ils ont voulu nous tuer, ils ont voulu nous convertir de force, ils ont voulu faire toutes sortes de choses. Chaque fois qu'on a voulu toucher le Ham Israël, on est sorti encore plus fort, encore plus renforcé. Parce qu'une Gemara, elle dit, je crois, dans Menachot, le juif est comme l'olive, il donne le meilleur de lui-même qu'une fois pressé. Abodai, chaque fois qu'on a voulu terrasser le Ham Israël, il s'est renforcé dans sa tzidkout, dans sa proximité avec Hachem. Aujourd'hui, il n'y a pas eu une génération dans laquelle il y a eu autant de yeshivot, autant de séminaires, autant de talmidei chachamim, autant de tshuva massive. Combien de nos frères en revient? C'est vrai que d'un côté, il y en a beaucoup qui se perdent et qui se font terrasser, mais d'un autre côté, quel retour massif! Quel Olama Torah merveilleux on a! Combien de Sfarim, combien de livres, combien de Chidushim, combien de Rabbanim, combien de Tzadikim? C'est des choses qu'il n'y a jamais eu. Comment ils ont fait pour pouvoir nous terrasser? Ils ont vu qu'avec la force, ils n'arrivaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un petit verre aussi. Ils ont dit, cette mouche qui est le Ham Israël, on n'arrive pas à les attraper avec la violence. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur mettre les passions et les pulsions et le plaisir et le luxe de ce monde. On va vouloir les assimiler par une culture qui n'est pas la leur. Et à ce moment-là, on va pouvoir les attraper. Rabotaï, ce danger du monde, il est tellement redoutable, il est tellement difficile. Il faut faire attention à savoir que tout ce monde-là, il ne faut pas qu'on le vive comme une finalité, il faut qu'on le vive comme un moyen de servir à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas interdit de manger, ce n'est pas interdit de boire, ce n'est pas interdit d'avoir de l'argent. Si jamais on sait quoi faire avec ça, soutenir la Torah, soutenir les mitzvot, aller dormir pour prendre des forces pour mieux prier, pour faire la Avodat Hashem, prendre du repos, aller au sport pour pouvoir se sentir bien dans sa peau, pour pouvoir faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Toutes ces choses-là, le Ramchal nous le dit dans la fin de Messiat Yesharim, un homme doit faire en sorte que ce monde-là ne soit pas une finalité, mais ne soit qu'un moyen de servir Hashem. Les peuples des nations, ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à nous avoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, venez, on va vous assimiler. Vous allez vivre comme des goïms, avec les passions et les pulsions, avec la douceur de ce miel. A priori, ça a l'air d'être un élixir de vie, mais c'est un élixir de mort pour nous. On doit faire attention de se protéger, de se préserver, de faire comme Ephraïm et Menaché, que toute leur vie faisait attention, que tout ce monde dans lequel ils étaient, tout ce monde qui les entourait, tous ces sorciers, toute cette prostitution, toutes ces mœurs dépravées, toutes ces mauvaises choses qu'il y avait autour d'eux, ça aurait pu avoir une influence négative, ils auraient pu se faire aspirer et happer par ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris conscience qu'on était dans ce monde, un monde de passage. Prépare-toi dans le couloir de ce monde pour entrer dans le palais royal du monde futur. Bédrat Hachem, qu'on ait le srout, nous aussi, de faire attention à cette influence négative. L'influence, il faut la déraciner de l'intérieur de nous. Il faut faire en sorte de la déraciner pour pouvoir vivre entièrement avec la Torah, baser toute notre vie sur la Torah, faire en sorte de se remplir au maximum, de vivre avec Akadosh Baruch Hu comme le centre de nos préoccupations, qu'on n'a rien d'autre dans notre vie qu'Hachem. Tout ce qui va autour, c'est pour avoir la même chose, de faire en sorte de ne pas se perdre. Quelqu'un qui vit comme ça, alors ce verre de miel qui sera là, il ne sera même pas mitiachès. Moi, je vous dis, quand je vois toutes ces ch'touillottes, je rigole. Parce que je sais qu'on est les plus grands milliardaires du monde, on a le cadeau précieux de la Torah Kedusha, c'est la plus grande milliard. Est-ce qu'on peut me corrompre avec des petites ch'touillottes, avec des vanités de ce monde? Des choses qui sont éphémères, si on a le srout d'avoir des pierres précieuses qui sont la Torah. Rav Raïkin disait toujours, un homme quand il est... Pourquoi les gens ils font pas la Torah aujourd'hui? Et ouais, c'est des contraintes, la Torah, la tsniout, les choses. Rabibi, tu te rends compte que quand t'es tsanoua, t'es en train de tenir le monde entier. Le monde entier repose sur toi, sur ta Kedusha et sur ta Tara. Chaque goutte de transpiration que tu verses, c'est avec ça qu'on fera Triatam Etim. Chaque goutte de tfila que tu es en train de faire, c'est avec ça qu'on fera Triatam Etim. Chaque limout de Torah que tu fais, tu procures le salut à tout le monde. Tu permets à des femmes d'accoucher, tu permets à des enfants d'arriver dans le Derech HaTorah, tu ramènes des Neshamot qui sont à Hong Kong, là-bas, perdus. Tu es en train d'aider des soldats qui sont en train de se faire tirer dessus à Jenin. Tu te rends compte, la Shroud, que tu es un Ben Meler, que le fils d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi les gars ils font pas la Torah? Parce qu'ils croient qu'ils sont en train de porter un fardeau. Rav Raïkin disait toujours, quand tu es en train de porter un sac de pommes de terre, alors tu te dis, le gars, il souffre et tout ça, tu te rends compte. Imagine que le type est en train de porter un sac de diamants. Il a beau porter les diamants les plus lourds du monde, mais pour lui, c'est quelque chose de léger. Quelqu'un qui a profondément conscience qu'il est le plus grand milliardaire parce qu'il a le srout d'avoir la Torah. Et ma Torah, tu ne l'enlèveras jamais. Tu peux m'enlever ma vie, mais ma Neshama, tu ne l'enlèveras jamais. Atzilenim yadachim yadessav. Et ça, tu peux venir m'enlever ma vie. Par contre, ma lumière de ma Torah, tu ne l'enlèveras jamais. Mais dans Hashem, qu'on ait le srout de rester attaché à ces paroles de Emet, que dans cette obscurité profonde de l'exil, on vive avec ces repères éblouissants qui sont la Torah et les Chachamim, qu'on reste attaché avec la lumière des Tzadikim, et Bedrat Hashem, Bisrouzé, on aura le Gilouï de la Shrina, de Mashiach, Bimera, Biamenou. Ouais, je regrette qu'on n'était qu'une poignée, parce que peut-être qu'on aurait pu changer le monde ce soir.